Gameblogueur, gameblogueuse, bien le bonjour, bienvenue sur gameblog.fr pour le 174e podcast de la rédaction, le bilan du mois de février comme d'habitude, premier mercredi du mois, égal bilan. Eh bien, encore bilan. Une fois, on vous l'avait annoncé, une année 2011 qui commençait le mois dernier en janvier sur des chapeaux de roue, eh bien, ça continue en février avec un mois qui est toujours très important dans le cœur de Gameblog, à plus d'un titre, tout simplement déjà car nous avons fêté il y a quelques jours maintenant, eh bien, les 4 ans du site. Effectivement, c'était le 20 février 2007, on vous l'a dit, on va pas s'attarder dessus. Vous avez pu vivre, peut-être, les séquences live, le chat vidéo live avec nous. C'était lundi dernier. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir. Même si je dis ça alors qu'on l'a pas encore fait. C'est ça la magie du podcast, puisqu'on enregistre quelques minutes avant ce fameux live. Mais en tout cas, pour nous, c'était vraiment cool. Le site, effectivement, grâce à vous, se porte bien, avance bien. Il reste encore de sacrés défis, à commencer par le vrai défi de la rentabilité. On ne cesse de le
répéter. C'est le principal, même.
Exactement. Donc, c'était un vrai gros défi. Mais on a confiance, on est confiant et les chiffres, en tout cas d'audience, prouvent que grâce à vous, on avance dans la bonne direction. Autre événement important dans la vie de Gameblog en ce mois de février, et je me tourne vers toi, Julo, je sais pas pourquoi, mais
d'accord,
parce que tu souriais, c'est la World Game Cup 2011 qui s'est tenue donc le week-end dernier, hein, c'était vendredi, samedi et dimanche, la Coupe du Monde des jeux de combat dont Gameblog était partenaire.
Partenaire, et comme vous avez pu le voir avec l'habillage du site, vous avez été redirigé vers une page dans laquelle il y avait ces lives en direct de Cannes où on pouvait voir donc les meilleurs joueurs de France et de Navarre qui s'affrontaient sur Street 4, sur tous les jeux de baston du moment,
versus Capcom,
il y avait plein de moments à vivre. C'était un petit peu difficile techniquement au début avec les micros, etc., mais finalement ça s'est très bien déroulé. Et puis c'était quand on est fan de versus fighting, c'était la classe.
Mais alors justement, pas que fan, parce que moi je le confesse, vous le savez, je suis pas un grand connaisseur des jeux de baston et j'ai pris très souvent le live pendant le week-end. Je suis tombé sur les envolées lyriques de Ken Bogard, j'étais quand même halluciné, même si je le connaissais déjà un petit peu, mais là de le voir vraiment en live, de voir qu'il passait d'un jeu à l'autre comme ça, de voir toute la technicité, et puis même avec certains moments il y avait aussi des...
Il y avait de la vanne aussi.
Il y avait de la bonne vanne, et puis il y avait des petites émissions de Bagropoint avec vraiment... On voyait qu'il y a vraiment du fond dans le jeu de combat, c'est pas juste truc bourrin, et ça c'est vraiment plaisant.
Il y a de la passion aussi, je vois les mecs, c'est grandiose effectivement les commentaires. Je sais pas si... Alors, on a parlé tout à l'heure, t'étais pas encore là, t'es pas tombé sur les commentaires en arabe à un moment?
Non.
Je sais pas, il devait y avoir...
Parce que c'était fait par équipe nationale.
Voilà, c'est ça. Et apparemment, il y avait peut-être un commentateur pour, pour chaque, je sais pas, mais ça, c'était assez sympa. Il y avait un côté, du coup, mondial qui était
exactement
intéressant.
Mais en tout cas, c'était super bien organisé. Nous, on a vraiment été heureux de pouvoir vous faire vivre ça.
Pas fini.
Ah, c'est pas fini. Il y aura d'autres événements de ce style. Et puis, vous le voyez, sur Gameblog, on fait de plus en plus d'événements en live, parce que c'est aussi ça, ce que permet Internet. On remercie SNK, on remercie aussi Poufy et Mimic, qui étaient directement là-bas. Et vous allez voir, la World Game Cup va continuer dans les jours à venir sur Gameblog, puisque désormais vous allez retrouver des reportages, des interviews, enfin vous la faire vivre encore plus précisément au cœur de tout ce qui s'est passé si vous avez raté ce week-end le WGC, la WGC en direct, mais visiblement pas forcément tous parce que vous étiez très nombreux à regarder sur Gameblog. On a fait des très beaux pics d'audience et on vous en remercie. Alors, autre information dans l'actualité de Gameblog, l'actualité du site qui a légèrement évolué à Raon avec l'apparition de petits onglets sur la home. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, auparavant, tout ce qui était blog VIP, vous savez, ces blogs des professionnels et des personnalités du jeu vidéo qui nous accompagnent et qui ont choisi Gameblog pour s'exprimer, étaient mélangés avec le reste de l'actualité. Et c'était parfois problématique parce que forcément un article en chassant un autre et l'actualité étant particulièrement chargée depuis 2 ans et ça n'a pas l'air d'être presque de s'arrêter comme vous allez le voir, on a décidé de mieux ordonner un petit peu ses contenus et de donner à chacun une fenêtre de visibilité directement sur la home au travers de petits onglets qui séparent tous ces contenus. Donc il y a les contenus de la rédaction, il y a les blogs VIP et puis ça nous permet aussi de mettre en avant vos blogs à vous, ce qu'on pushait de temps en temps un petit peu dans le fil d'actualité et on continue à le faire parfois quand vous êtes les premiers à soulever une news particulière ou à passer un contenu intéressant. Mais en tous les cas, du coup, chacun a accès à la home comme ça et on peut mieux séparer ces différents contenus parce que ça commence à faire beaucoup de choses. Donc du coup, il y a un petit peu tout le temps, 24 heures sur 24, des choses à voir sur Gameblog. Même la nuit, certains posts, etc. Donc vous cliquez simplement sur les petits onglets qui sont en face du bloc Actu.
Sous la une.
Voilà, et comme ça, vous pouvez passer des publications de la rédaction au blog VIP, à vos blogs à vous, ou tout affiché en vrac.
Voilà, c'est une fois de plus, c'est du plus, ça se rajoute, mais c'est pour vous la possibilité de naviguer autrement aussi, peut-être de faire votre choix. Et puisque justement, tu parlais, Raon, des blogs VIP, ce mois de février 2011 a marqué l'arrivée de deux nouveaux blogs VIP vraiment intéressants, radicalement différents. D'un côté, on a le blog VIP d'Eidos Montréal, donc les créateurs de Deus Ex Human Revolution, tu vas nous en parler. Et de l'autre, l'arrivée du blog VIP de Kayane. Et donc là, c'est une jauge de jeux de combat qui fait ça depuis qu'elle a 9 ans et qui est vraiment l'une des numéro 1 dans le monde.
Et qui était à la World Game Cup d'ailleurs, qui avait très bons résultats d'ailleurs. Ouais, j'aurais peur de dire une connerie.
Avec Mimic, comme dirait. Tiger. Ah oui.
Et puis blog VIP de Eidos Montréal, donc pour le moment il va être effectivement essentiellement centré sur Deus Ex, mais on sait aussi qu'Eidos Montréal prépare un autre jeu.
Ah bah on a vu une image d'un jeu qui pourrait être un Thief.
Un Thief, voilà, un nouveau Thief.
J'aime bien qu'on dise Thief, ouais, parce qu'on n'arrive pas à dire Thief.
Comme le
thief.
Détergent.
Non, justement, pas celui-là, l'autre.
donc qui va être directement écrit par l'équipe de développement d'Eidos Montréal qui a travaillé pour l'instant sur Deus Ex. Avec JBB, le directeur artistique, qui a fait un boulot extraordinaire, le producteur David Anfossi et puis le directeur du jeu Jean-François Dugas, voilà, qui vont se relayer un petit peu à la plume et vous faire partager les derniers moments du développement de Deus Ex et l'envers du décor au fur et à mesure de ce qu'ils auront envie de partager avec vous.
Ouais, et ça, c'est une vraie exclusivité hein, pour Gameblog.fr, c'est le seul endroit où, en langue française, comme ça vous allez pouvoir découvrir, fait par les développeurs eux-mêmes, hein, c'est pas les gens qui l'écrivent à leur place, c'est vraiment eux. Donc on les en remercie une fois de plus parce que même pour nous c'est passionnant de découvrir les coulisses de la fin d'un développement comme ça,
et surtout pour un jeu comme ça, extrêmement attendu à la rédaction et ailleurs.
Donc un nouveau beau blog VIP vraiment à découvrir sur Gameblog. Allez, on va passer à la suite de l'actualité du bilan du mois de février. Vous le savez, au début on parle donc toujours de l'actualité du site Gameblog, ça c'est fait, maintenant nous allons passer au test et après une grande partie liée à des impressions, car il y a eu 1001 événements. Vous allez voir, c'était assez hallucinant, entre le lancement de la 3DS, la présentation du Xperia Play, donc le PlayStation Phone quelque part, la PlayStation Experience en février, au début février, avec les jeux comme Uncharted 3, Journée, Resistance 3 ou Infamous 2, mais aussi le Microsoft Showcase qui s'est tenu il y a quelques jours à peine, où Raon était présent à San Francisco. Il a pu jouer au multi de Gears of War 3, découvrir le nouveau Batman, Child of Eden, des impressions qui ont l'air bien meilleures que celles que nous avions eues avec Julo au Tokyo Game Show, et puis plein d'autres impressions sur des jeux comme Elle est Noire, auquel nous avons enfin pu jouer, Duke Nukem Forever, Lego Pirates des Caraïbes, sans oublier les 25 ans de Zelda. Enfin voilà, un podcast qui s'annonce épique, chargé, dense. Eh bien, c'est parti, on va commencer donc avec les tests et on va commencer avec Killzone 3. Killzone 3 qui donc arrivait beaucoup plus rapidement que d'habitude. Il y a toujours eu des assez longs laps de temps qui séparaient le premier et le deuxième et le second, et puis le deuxième et le troisième, là ça est beaucoup plus ramassé. On sait que c'était une aventure qui est beaucoup plus variée. Qui veut prendre la parole? Personne. Effectivement, celui qui serait le mieux placé pour vous en parler, ce serait Mimic. Malheureusement, il est coincé actuellement dans son train en revenance de la World Game Cup. Voilà ce qui explique pourquoi sur Killzone 3 et malheureusement sur Bulletstorm aussi, on va devoir passer assez vite et on va vous renvoyer bien sûr à la fois aux tests écrits et tests vidéo de ces jeux. Mais Killzone 3, ce qui en ressort globalement, c'est une variété bien plus importante dans le précédent épisode.
Déjà dans les couleurs.
Ouais, visuellement, mais aussi en termes de gameplay. A priori.
En revanche, il y a certaines. Enfin, tout n'est pas au même niveau de standard de qualité, c'est-à-dire qu'il y a des moments un petit peu plus mous, il y a des séquences d'infiltration dont on se serait un peu passé parce que finalement elles n'apportent pas grand-chose à l'aventure, elles ne sont pas extraordinairement bien traitées. En revanche, le jeu est très efficace, c'est un grand FPS en tout cas pour cet exclu PS3, même
visuellement,
s'il ne va pas aller.
Ils sont allés très très loin visuellement quand même.
Il y a un mode coop et online beaucoup plus développé que dans le dernier épisode.
Exactement. Oui, alors sur un écran splitté aussi, et puis le multijoueur compétitif est lui aussi très complet. Avec tout un système de classes, etc., qui a été plus ou moins raffiné et repris, et c'est vraiment efficace, et c'est surtout vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de jeux avec des multis de cette qualité-là, visuellement et techniquement, qui est quasiment l'équivalent du solo. Enfin, moi, je n'ai pas vu de grosse différence. Donc c'est vraiment un très gros titre incontournable pour les amateurs du genre sur PS3, ça fait pas l'ombre d'un doute.
Voilà, Bulletstorm de son côté, c'est techniquement assez classe, par contre apparemment ça pêche un petit peu par une répétitivité des actions qui est demandée, ce qui fait que ça n'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu.
En même temps c'est un jeu volontairement bourrin qui s'assume comme tel.
Donc, ouais.
Le but
c'est
de faire des combos de dingue et d'envoyer...
De tuer avec classe.
Voilà, de tuer avec classe.
Et Killzone 3 se joue au PS Move aussi quand même.
Aussi, ouais.
Et ça marche, ça marche bien,
ouais, ça marche pas si mal que ça. Ouais, c'est pas mal
quand même. Tu peux liner aussi avec le PlayStation Eye.
Julo, puisque tu es le micro est à toi, Test Drive Unlimited, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors c'est Test Drive Unlimited
en 20 secondes.
Alors top chrono, une réalisation un petit peu datée malheureusement parce que le concept est vraiment génial. D'ailleurs on s'étonne que personne n'ait repris un peu cette formule. Ça date de 2006 quand même, la sortie du premier Test Drive Unlimited. Donc c'est fait chez Ten Studio, qui avait fait Verali à l'époque, vous en souvenez forcément, avec Émotion, voilà, une boîte française. Donc en gros le principe c'est une île gigantesque, en l'occurrence Ibiza, c'était Hawaï dans le premier. C'est, quand je dis gigantesque, c'est vraiment gigantesque, et surtout c'est reproduit à l'identique, ils ont utilisé des données topographiques réelles, etc. Et c'est assez impressionnant. Mr P qui avait l'habitude
d'être passé, mais comme sa poche, j'ai halluciné à chaque fois il passait, il faisait
oui ça c'est vrai, c'est ça.
Mais véridique, hein.
Il connaissait pas trop les boîtes de nuit, mais
il y a que 4 routes, c'est pour ça.
Non, il y a beaucoup de routes, il y a vraiment, il y a 2500 km de route je crois. C'est gigantesque, et donc ça permet une diversité vraiment super intéressante sur les courses. Après il y a un côté aussi vie ma vie de riche ibizien, je sais pas comment on dit, où tu vas gravir les échelons et puis te payer une baraque et puis une baraque encore plus grande et puis des Ferrari, etc., etc.
Et des meufs qui font du car wash pour toi.
Voilà, et tu peux aller au car wash avec des nanas à moitié à poil et tout. Donc franchement le concept est vraiment sympa, la réalisation malheureusement pêche un petit peu,
ouais, sur, elle craint un peu, soyons clairs,
sur PS3 ça rame pas mal. Il n'y a pas de piétons dans les rues,
voilà, tous la teuf ou sinon ils dorment.
On a l'impression qu'ils sont restés un peu bloqués en 2006, ouais, effectivement.
L'ambiance sonore elle pue la mort
un peu, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et puis les personnages qui font un peu Sims, ou tout du moins PlayStation Home, ouais. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc tout ça craint un petit peu, mais je sais pas, il y a quelque chose de
d'accrocheur,
qui accroche vraiment, et qui fait que bah, voilà, on y reste, on continue à progresser. C'est assez addictif en fait, bizarrement. Donc voilà, un jeu assez moyen, on va dire, mais voilà, on espère en fait que d'autres s'intéresseront vraiment à ce genre en particulier, et feront un grand jeu avec. Voilà. Ouais.
De ton côté, Raon, toi, tu as pu jouer, c'est sur PSP que ça se passe, Tactics Ogre.
Oui, bah pour faire simple, c'est un vieux jeu, Tactics Ogre, hein, qui date d'il y a très longtemps, qui est entièrement remaké, mais là, c'est un remake vraiment, vraiment très sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont même revu certaines bases fondamentales du gameplay. C'est un tactical RPG dans la plus pure tradition, donc ça veut dire un jeu avec énormément d'euro-compteurs, où il faut s'investir beaucoup, qui est très basé sur des systèmes hyper complexes, avec plus d'une trentaine de classes à découvrir, des skills à acheter, etc. Il y a un scénario assez incroyable, c'est par les développeurs, donc c'est l'équipe à qui on doit notamment des Vagrant Story, des Final Fantasy Tactics, ces jeux-là chez Square. Au départ j'étais un petit peu dubitatif parce que moi j'adore particulièrement Final Fantasy Tactics, et en fait ils ont vraiment fait un remake qui déchire à tous les niveaux. Il n'y a pratiquement rien à acheter. Ils ont revu énormément des problèmes qu'il pouvait y avoir d'équilibrage dans la toute première version de Tactics Ogre, changer les systèmes qu'il faut, rajouter quelques éléments un peu vraiment sympa pour le rendre plus accessible, surtout parce que c'est vrai que les tactical RPG, quand tu vois ça comme ça, tu te dis oulala, c'est compliqué, il y a des millions de trucs, c'est du tour par tour, c'est de la stratégie.
Ça demande un vrai investissement, voilà. C'est certain.
Mais cette fois-ci, ils ont rajouté un truc tout bête qui s'appelle le Chariot Tarot. Ça te permet de revenir 30 ou 50 coups en arrière, je sais plus.
Donc 50 coups en arrière. Ah oui, c'est
quand tu refais une connerie.
Important quand même.
Voilà, ouais, bah oui, c'est-à-dire que quand tu fais une connerie sur une baston, parce que c'est quand même assez difficile comme genre de jeu, si tu t'as pas les bonnes classes, si t'as
surtout
pas fait
le remake
trucs.
D'un jeu. Donc c'était quelle année la sortie du premier? C'était l'original. C'était il y a très très longtemps sur Super Nintendo. Ouais. Et à l'époque quand même, les jeux étaient assez hardcore, costaud, quoi. Ouais. Surtout dans ce genre-là.
Ouais. Et donc pour tous ceux qui ont peur de se lancer dans ce type de jeu-là, moi je le recommande chaudement, parce qu'effectivement, si t'as fait une connerie, bah tu reviens en arrière, c'est pas un problème. Tout est assez bien expliqué quand même s'il faut s'accrocher un petit peu au début. Et puis évidemment ils ont refait l'ensemble du jeu visuellement. Bon, c'est pas, ça va pas être le plus beau jeu de la PSP, ça reste de la 2D avec juste la carte en 3D comme
ça. Quand on aime la 2D, c'est sympa.
Mais c'est voilà. Et puis il y a les fabuleuses illustrations
De cet artiste dont tu ne te rappelles plus le nom,
plus le nom voilà. Mais c'est, le même que celui de Vagrant Story et Final Fantasy Tactics, donc c'est très beau, le scénario est génial, le seul truc, les musiques sont fabuleuses, le seul truc c'est qu'il va falloir pour ceux qui s'y intéressent parler anglais, parce que le jeu n'est pas du tout traduit,
comme souvent dans ces cas-là,
et c'est de l'anglais un petit peu enfin médiévalisé, vaguement un petit peu vieil
très
anglais, etc.
Quoi.
Très littéraire, ouais. Et du coup c'est un petit peu difficile à approcher quand on est anglophobe, forcément. Donc c'est un peu con, mais en tous les cas, moi je me suis bien éclaté avec et je continue d'ailleurs d'y jouer.
Très bien. Bah justement, tu parlais d'un jeu dans lequel il faut un investissement de temps certain. C'est pas du tout le cas de Kirby au fil de l'aventure, qui est un jeu chewing-gum, bonbon, barbapapa, très léger, très sympathique. Mais moi, j'ai trouvé vraiment une vraie bouffée d'air frais. Ça fait du bien. Regardez un petit peu les jeux sur lesquels on a parlé. Killzone 3, Bulletstorm. On va parler dans quelques instants de Marvel vs Capcom. Enfin, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de violence. Là, c'est à 10 000 lieues de tout ça. C'est très coloré. C'est extraordinairement simple, c'est certain, puisque Kirby ne peut pas mourir à aucun moment. Vous allez juste perdre, un peu comme Sonic, les diamants, les perles que vous aurez récoltées, et vous allez devoir les reprendre. Pour une fois, Kirby n'avale pas ses adversaires, même, voilà, mais en fait il peut les prendre, il les défait de ses fils de laine et il joue avec, finalement. Donc on ne meurt pas, l'aventure n'est pas très longue, le challenge même pour les gamers n'est pas très corsé. Pour autant, c'est très rafraîchissant, c'est très agréable. Moi, je regretterais juste, c'est un peu ce que je disais dans le test, contrairement à Pixar qui arrive souvent, voire toujours, à faire des dessins animés qui s'adresseront à la fois vraiment aux plus jeunes, parce que là pour Kirby, je crois, Traz, toi ta fille a joué vraiment, elle a adoré.
J'ai joué aussi avec elle, effectivement, c'est vraiment pour les enfants.
Bah voilà, c'est vraiment pour les enfants.
Très, très
et
le
deuxième degré de lecture que Pixar arrive vraiment à mettre dans ses dessins animés, là il est beaucoup plus léger, quoi. Ça veut dire... Mais en revanche, pour un gamer justement qui a une Wii et qui passe beaucoup de temps sur des jeux plus guerriers, ça va lui faire une belle respiration parce que le jeu est de très haute qualité.
Mais il y a quand même des choses à récupérer.
Oui, il y a
un petit peu de skill.
Franchement, pas vraiment.
Non, mais on peut finir le jeu assez vite d'une traite, mais ensuite, effectivement, pour arriver à 100%, bah, il faut retrouver les trucs cachés, etc.
Mais
qui sont un petit peu plus.
Pas compliqué.
Non, c'est,
pas
compliqué.
Très compliqué. C'est-à-dire que c'est pas du tout d'un degré de peaufinement d'un Super Mario ou ce genre de choses.
C'est
vraiment loin.
C'est assez simpliste dans le concept, mais c'est tellement bien foutu visuellement que.
Et puis même d'ambiance, et puis ça change.
Exactement.
Moi, ce que franchement je vous conseillerais, si vous êtes vraiment gamer et que vous vous dites bon, prenez-le et revendez-le après, mettez-le en occasion rapidement une fois que vous l'aurez retourné. Mais jouez-y. Moi, j'ai retrouvé un petit peu cette candeur et ce côté vraiment agréable finalement qu'avait un Yoshi Stories sur Nintendo 64, qui était franchement un grand jeu, même si voilà, il n'avait pas réinventé la plateforme. C'est clairement pas le cas non plus de ce Kirby au fil de l'histoire.
Il avait inventé un style en tout cas.
Exactement. Ouais. Qu'on retrouve là avec grand plaisir.
Mais c'est l'un des plus beaux jeux de la Wii. Hein.
Ah aussi, oui.
Ouais, clairement, ouais, c'est très
clairement.
Très beau.
Il y a des très beaux effets comme ça quand on tire le décor, quand on passe derrière. Enfin, c'est très très mignon. Est-ce que tu peux nous parler, Tiger, toi, de Tron? Ah, le film est sorti, le film qui a fait tant parler, mais le jeu en lui-même.
Si le film se regarde gentiment, hein, c'est plutôt un clip sympa à regarder sans plus. Le jeu,
ça, c'est ton avis.
Pas loin. T'as adoré Tron, toi?
Ah, j'ai pas adoré, non, l'histoire est assez convenue, mais par contre, visuellement, j'ai pris une claque incroyable, même si je rêve que d'une chose, c'est de retourner le voir, pas en 3D, parce que j'ai trouvé cette 3D à chier, enfin la 3D en général à chier.
D'accord.
Mais sinon, l'esthétisme général du film, plus la BO de Daft Punk, moi je le trouve fantastique.
C'est très joli, mais enfin moi il m'en reste rien, ça m'a pas
très
marqué
bien.
Plus que ça. Et le jeu non plus d'ailleurs,
très bien.
Parce que le jeu est très moyen. Donc c'est Propaganda Games qui s'est occupé de cette adaptation de Tron. Ils ont voulu en faire vraiment un épisode cross-média, c'est-à-dire qui assure la transition entre le premier film Tron et le second. Donc on voit comment le monde de Tron en est arrivé à une situation catastrophique. Malheureusement, l'histoire ne s'apaise pas très loin. Au niveau du gameplay, c'est un peu catastrophique parce qu'on essaye de choper un petit peu. Oui, je te vois interloqué. Ah, c'est pour la photo.
Okay, voilà.
On essaye de choper des trucs un petit peu partout. La principale influence, c'est Prince of Persia, les derniers Prince of Persia d'Ubisoft. Donc on s'accroche au mur, on fait des acrobaties comme. Mais
c'est pas bien.
Ça marche pas. Alors la moto, c'est peut-être le truc qui est le plus rigolo dans le jeu, sauf que ça va tellement vite que t'as le temps de rien faire. Puis vous connaissez les motos de Tron, elles tournent à angle droit.
Ouais.
Donc du coup, il bon, y a des parties de rigolade en ligne du coup, parce qu'il y a des accidents assez bizarres. Mais sinon, voilà, c'est pas très beau. Bon, évidemment, l'univers de Tron est assez épuré. Mais là, on se contente d'avancer dans des phases de plateforme alternées avec des phases de combat. C'est très mou, on s'ennuie beaucoup.
Ce que t'essaies de nous dire, c'est que ce Tron est un e-tron.
J'irai pas jusque là et puis
donc finalement tu l'as faite cette vanne,
c'est ça, bah oui, je l'assume assez bien,
mais c'est un peu triste quand même. C'était le dernier jeu de Propaganda Games, donc
moi je sais jamais si c'est vraiment très triste, c'est à dire s'ils savent pas faire des jeux, pourquoi les laisser vivre, tu vois ce que je veux dire.
Oui, tout à fait,
il y en a d'autres qui ont du talent.
J'aime bien garder un bon souvenir de ceux qui partent.
S'ils savent pas faire des jeux, pourquoi les laisser vivre?
C'est pas mal ça,
professionnellement parlant.
Évidemment,
il y a tellement de gens qui ont du talent et qui rêveraient de l'exprimer.
Oui, mais maintenant ils vont aller dans d'autres studios.
Très bien, et pervertir les autres. Génial. Garde le micro, Tiger, pour nous parler rapidement de Marvel vs Capcom 3.
Oui, vous avez lu le test, j'en suis sûr. Vous avez vu le test vidéo avec Mimic aussi. On a testé les modes en ligne et différents modes. Marvel vs Capcom 3, donc, était très attendu par tous les fans, parce que Marvel vs Capcom 2, ça remonte à plus de 10 ans maintenant, je crois.
Et c'était tellement génial.
Ouais. Donc, vous connaissez le principe, hein, la confrontation des héros de l'univers Marvel face à...
Non.
face à ceux de l'univers Capcom. Et je sens que tu es sur le cul, la révélation ultime. un nouveau moteur graphique, c'est maintenant en 3D, même si on garde les mêmes bases de gameplay.
Alors ça reprend en fait le moteur graphique de Resident Evil 5.
Oui, c'est le même type.
Oui, voilà. Tout à fait. Mais comparé aux épisodes qui étaient en 2D avant, c'est pour ça que je parle d'un nouveau moteur graphique.
Avec un rendu BD, moi, que je trouve vachement réussi.
Ouais, que j'aime aussi beaucoup. Ouais.
Qui devient vachement mieux dès que ça bouge, parce qu'en image fixe, on s'en rend pas bien compte, mais dès que ça bouge, c'est génial.
C'est sombre quand même.
Oui, mais justement, c'est pour mettre en valeur les effets de lumière, etc.
Exactement, le coup de crayon comme ça appuyé autour des personnages, bon, qui s'y est un peu mieux évidemment aux personnages de comics, donc à ceux de Marvel qu'à ceux de Capcom. Mais bon, tout reste très joli, c'est très spectaculaire. Il y a beaucoup d'effets.
C'est tellement spectaculaire qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe à l'écran. Hein.
Exactement. Alors certains s'en plaignent, trouvant que c'est un peu trop fouillis. Moi, je trouve que ça fait partie du jeu aussi. C'est un jeu popcorn, quoi. Ça doit exploser de partout. Voilà.
C'est le but, c'était déjà le cas dans les autres.
Exactement. Et on reste dans un gameplay comme dans les autres, des combats en 3 contre 3, où on peut intervertir les combattants ou les faire apparaître pour apporter un soutien pendant les combats.
Ou des super furies de la mort.
Exactement.
Avec des juggles.
Au niveau des petites subtilités de gameplay qui ont été ajoutées, la principale nouveauté, c'est le X-Factor, qui permet en fait de déclencher une sorte de furie qui permet aux personnages, selon le nombre de personnages qui restent en fait pendant le combat, durant un temps... Je suis en train je reprends. Le X-Factor, en fait, permet de frapper plus fort, d'être plus résistant pendant un temps donné. Si il vous reste qu'un seul personnage en lice, ça durera 30 secondes. Si vous en reste deux, ça durera 20 secondes, etc. etc. Donc, c'est ce genre de...
C'est fait pour les retournements de situation.
Exactement. Quoi, en fait. De ce petite subtilité qui, dans un tournoi, peuvent tout changer. Quoi, parce que si un personnage reste avec un X-Factor, il frappe plus fort, il est plus résistant et donc tout peut changer.
Et si en plus, c'est un perso cheaté comme ça, Sentinelle à la base, tu peux avoir des mecs qui ont perdu tout leur perso et qui se retrouvent avec juste Sentinelle à la fin, qui passent avec leur X-Factor et qui plient les trois autres.
Mais je sais pas si c'est un jeu à tournoi en même temps.
Ça joue, mais c'est plus pour la rigolade qu'autre chose, a priori.
Parce que avec des retournements de situation pareils, une démesure totale, etc., on est très loin de...
Ça fait partie du jeu aussi. Il n'y a pas une technicité, je dirais, comme dans un KOF ou dans un Street Fighter, mais on joue beaucoup sur ce truc très spectaculaire aussi. Le seul bémol sur ce titre, en fait, c'est, on le redira jamais assez, la politique des DLC voulue par Capcom. Certes, on a 36 personnages environ de base, ce qui est pas mal, mais bon, si on le compare aux deux où il y en avait 56 à débloquer et tout, c'est un peu chiche.
Et surtout, y a pas Cyclope, par exemple.
Il y a pas Cyclope, qui était un personnage essentiel.
Donc de base, quand tu mets pas Cyclope, alors qu'il y a je sais pas combien de persos et qu'il y a les X-Men dans l'histoire.
Exactement, et le problème, c'est que ça vient justement, tout ça, le fait de ne pas avoir ce genre de personnage dans le roster de base, ça découle de cette politique de Capcom
DLC.
Qui vise à vendre ces personnages en DLC, et le problème, c'est pour des prix exorbitants, 5 euros le personnage, et là la pilule a un peu de mal à passer étant donné que voilà, le 1er mars les premiers DLC arrivent, le jeu est sorti depuis 2 semaines à peu près, donc voilà, on sent que les personnages auraient pu être inclus directement dans le jeu.
On est clairement d'accord avec toi,
Tigé. Allez, on va passer aux événements qui ont marqué ce mois de février. Et il y en a eu énormément. On va commencer forcément avec le plus récent et celui finalement qui a peut-être le plus d'impact sur la galaxie gamer. Il s'agit du lancement de la Nintendo 3DS au Japon. C'était le 26 février dernier. La 3DS sortant le 25 mars prochain chez nous, bien sûr. Alors, pour ce lancement, Nintendo avait mis 400 000 machines en vente. Elles sont parties comme des petits pains, instantanément, avec les habituels queues qu'on a pu découvrir à Akihabara et autres villes de Tokyo. Enfin, Akihabara est un quartier de Tokyo, bien sûr. Autres villes japonaises, plutôt. On sait aussi qu'apparemment, il y aurait des petits réassorts ponctuels de la part de Nintendo oui. pour justement gérer différemment, on va dire, la pénurie, Julo.
Oui, oui, quelques jours après la première pénurie, effectivement, il y a eu des réassorts immédiatement. Donc, je ne sais pas si c'est une politique à la Apple hein, de contrôle sur les stocks pour mieux voilà pour
c'est-à-dire qu'ils avaient déjà les stocks en arrière boutique avec une date
bah dessus, ouais
ça serait pas étonnant hein.
Je serais pas super étonnant surtout que c'est une politique qui marche hein, on le sait maintenant mais dans tous les cas c'est un succès c'est un vrai succès pour le lancement
c'est clairement un bon démarrage ouais. et on imagine que ça va se poursuivre en tout cas pendant un bon laps de temps ce qu'on peut vous dire à l'heure actuelle on enregistre ce podcast le lundi 28 voilà et notre plusieurs 3DS sont en train d'arriver au sein de la rédaction vous avez pu au moins découvrir d'ores et déjà hein, le déballage réalisé par The Yann pour Gameblog où vous avez pu voir la bête mais on reviendra dessus dans le courant de la semaine vraiment plus précisément encore. Ce qu'on voit, c'est que à l'heure actuelle, les jeux DS sont tous rétro-compatibles avec cette 3DS japonaise.
Quelle que soit la région de
exactement, jeux, voilà. Américaine, française et autres. Or, ce qui veut dire aussi que les fameuses puces R4 le sont aussi. Enfin, les cartouches R4. Donc, on peut jouer malheureusement avec ces jeux, avec ces cartouches qui piratent les jeux. C'est un peu triste de voir que Nintendo n'a pas fait en sorte d'endiguer cette histoire là-dessus.
Je pense qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de le faire. Hein. Sinon, ils l'auraient fait, je pense. Ça m'étonnerait que ce soit une erreur de leur part.
Je pense que c'est pas du tout une erreur. C'est vraiment pour que d'abord les gens fassent la transhumance. Hein.
Ouais.
Venez, vous jouez RDS, même ceux qui ont des R4, machin. Par contre, on sait qu'a priori, ça va être. Enfin, c'est même pas a priori, ce sera zoné pour les jeux 3DS. Enfin, ça l'est déjà. Hein. Et il y aura des mises à jour et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une mise à jour qui arrive quelques temps après pour bloquer définitivement ce genre de choses, en tout cas dans un premier temps, mais qu'en tout cas au début la transition se fasse tranquillement quoi. Je ne sais pas, hein, c'est un avis. Qu'est-ce que vous attendez de cette 3DS, messieurs?
Bah écoute, moi pour le lancement, il y a évidemment
Nintendo Dogs, ouais. Super Street.
Bah il y a évidemment Super
Street.
Sur les
deux gros jeux avec ouais. le nouveau Layton aussi.
Ouais ouais. Alors moi, franchement, les jeux que j'attends le plus, c'est des jeux qui sortiront plus tard. Mm-hmm. Donc je sais pas si je vais être un grand fan tout de suite de la 3DS.
Ouais,
après, pour l'avoir essayé déjà plusieurs fois, moi la 3D, ça me fatigue très vite et surtout je peux pas la mettre à fond parce que sinon j'ai des décrochages de temps en temps. Donc je trouve que ça fonctionne bien et tout. Hein. Mais c'est peut-être un peu gadget, je sais pas, on verra. Mais moi j'attends surtout le remake de Zelda qui a l'air d'avoir été très soigné.
Mais ça te fait pas bizarre de te dire que t'attends surtout le remake
de
quelque
chose? Bah si, bien sûr, ça me fait
si
bizarre.
C'est un très grand jeu, je suis d'accord.
Ouais, ouais. Puis le Paper Mario qu'on attend tous aussi, je crois, parce que pour l'effet 3D là ça va être vachement sympa, je pense. Sinon, voilà quoi, j'attends de voir. Je sais pas si j'aurais tout de suite envie de dépenser près de 250€ pour.
Bah c'est ça, ouais,
même plus,
c'est
avec les jeux.
Avec les jeux.
C'est quand même assez cher, hein, parce que même s'il y a énormément de choses dans la boîte, y compris des jeux embarqués avec la console et puis les cartes de réalité augmentées et des petits logiciels amusants. Bon, moi je suis comme Julo, j'ai pas vraiment envie de claquer 250€ tout de suite.
Et puis on a beau dire que c'est une nouvelle console, que c'est pas une nouvelle exploitation de la DS de base, etc. Enfin, ça fait pas entièrement nouvelle console en fait, quelque part. Dans mon esprit, ça résonne pas comme une vraie nouvelle console.
Ah ouais
en fait. Ouais. Pour moi, c'est une évolution.
Quand même, de ce qu'on a pu voir vraiment avec cette 3DS, c'est déjà le boost de qualité des écrans.
Oui,
qui est vraiment un vrai cap au-dessus par rapport à la DS.
J'ai joué au PES aussi, c'est vrai que c'est vachement mieux qu'un PES sur DS. Non, mais c'est clair. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une nouvelle évolution.
Le son aussi qui a beaucoup été amélioré.
Le son, vachement.
Surtout qu'à la base, il paraît qu'effectivement, la 3D n'était pas inclue dans la console.
Au tout début, mais non, ils voulaient pas le faire.
Donc c'est ça qui est étonnant.
Mais ça rentrait quand même en 2008. Donc
oui,
ça fait quand même. Ils ont eu le temps de bien maturer l'histoire.
Moi, je suis le seul parmi vous à pas avoir vu la console.
Ouais.
Et toi non plus. En même temps, je m'en fous. Et donc, du coup, moi, pour répondre à ta question, ce que j'ai envie de voir, c'est la 3D, comment elle fonctionne. Ouais. Tout simplement. Avec la molette, pour voir si
ça marche bien, franchement, fort, ça marche bien.
Est-ce que ça fait mal aux yeux ou pas.
Mais je crois que c'est tous les gens avec des lunettes.
Mais moi, j'ai jamais de soucis avec la 3D, ni au ciné, ni ailleurs.
Ah, mais je sais pas si c'est pareil qu'au ciné. Là, c'est de l'autostéréoscopie.
Est-ce qu'on n'est pas. Oui, peut-être, c'est effectivement. C'est un truc.
Il y a un moment où. Et de toute façon, je pense pas qu'on puisse la mettre à fond dans tous les cas, quoi. Et nous, binoclaire.
Pourquoi ?
Bah, nous, binoclaire, je suis sûr que ça nous pose un problème.
Binoclaire. Ah bah, moi, je la mets à fond. Moi.
Ah, c'est
à fond,
mais ça dépend
de. Et t'as pas remarqué que tu décrochais moins quand tu la mettais à fond.
Ah, bah voilà. Mais ça dépend quelle est ta vie aussi. Tu peux être astigmate, myope, bidule, machin.
Et myope,
sur PC. Peut-être que c'est pas la même chose. Bah, moi, je suis les deux, tu vois.
Ouais, moi aussi.
Sur PC, il y a les mêmes systèmes aussi. Alors, c'est la stéréoscopie avec des lunettes, mais sur PC, t'as aussi chez Nvidia des molettes qui permettent de jauger la profondeur des trucs. Et il faut vraiment l'ajuster à son regard.
Oui, probablement. La distance, etc. Ouais, alors il y a un autre truc qui m'a saoulé, c'est aussi le problème de cet écran 3D, c'est que il doit être à distance identique pendant ta session de jeu tout le temps.
Ah,
et il doit pas bouger de gauche à droite.
Conditions de jeu.
Et le problème c'est que quand tu joues à PES par exemple, t'es un petit peu crispé sur la manette. Il y a des moments où tu vas essayer de speeder un peu, de changer de direction, etc. Tu vas faire bouger la console quoi qu'il arrive. Et dans ces cas-là, paf, la 3D décroche même naturellement. Donc ça c'est assez chiant.
Ouais, honnêtement, quand tu joues à la DS, moi je joue beaucoup la DS. Franchement.
Ah non mais je t'assure tu te rends pas compte, mais quand tu te crispes
tordu dans les
non, il suffit de la bouger d'un millimètre ou deux millimètres, c'est
moi pas
sur PES, je vous assure que si sur PES quand tu bouges sur le côté un tout petit peu bah je te dis en jouant quoi en te crispant un peu sur la manette bah ça merde un peu.
Et bah vous savez quoi justement, on a plusieurs DS là, 3DS, il va falloir que je y arrive, 3DS qui arrivent à la rédaction, elles sont d'ailleurs au moment où vous écoutez ce podcast d'ores et déjà entre nos mains, et on va pouvoir d'ici la fin de la semaine vraiment faire un retour très précis sur chacun des aspects de jeu, des mini-jeux intégrés, du ressenti de cette 3D, puisque bien évidemment on sait qu'à ce niveau-là vos questions sont nombreuses.
Et on n'est pas tous égaux, juste cette petite précision, on n'est pas tous égaux devant la 3D, et donc les impressions que je suis en train de vous donner, ou que Traz va vous donner, ou que toi tu vas donner, elles nous sont propres à chacun.
C'est
quoi,
certain. Donc, ça vous donnera une palette aussi un petit peu de ce qu'on peut ressentir, et puis après bien sûr
vous aurez l'occasion justement de l'essayer, puisque Nintendo a prévu une grosse campagne.
Une grande tournée dans toute la France.
Pour faire essayer l'effet, parce que c'est vrai que c'est quand même très difficile à expliquer sur des télés ou des trucs normaux. Quoi.
Il y aura des médecins avec eux ou... Il y aura des ophtalmos.
Donc, profitez-en, si ça passe à côté de chez vous, n'hésitez pas à essayer. Quoi.
Non, mais en tout cas, ce qui sera intéressant, c'est que justement, comme on va la voir, là, on va pouvoir y jouer des heures et des heures, on va pouvoir voir déjà si, même entre nous, la gêne, la fameuse gêne dont on entend parler, la fatigue des yeux, se produit ou pas. On vous donnera bien sûr toutes ces informations.
Quand on Street Pass. Non, voilà, c'est tout. Voilà,
je vous le finirai. Allez, autre temps fort de ce mois, c'est la présentation du Xperia Play au Mobile World Congress de Barcelone. C'était le 13 février dernier. Alors, il s'agit de fameux appareils qu'on appelait le PlayStation Phone. Il sortira en mars 2011. Il y a déjà plus de 20 éditeurs qui sont en train de travailler sur différents titres pour ce premier téléphone certifié PlayStation. Hein. C'est d'ailleurs un
nouveau saut.
Bon, voilà, le PlayStation Certified. Et ça, Sony a bien souligné qu'il s'agissait du premier téléphone qui en était doté. Ce qui sous-entendrait qu'il y en ait peut-être probablement d'autres à venir. Et les premiers jeux qui devraient accompagner le Xperia Play, c'est Dead Space, FIFA, Assassin's Creed, Guitar Hero, qu'on pensait mort.
Ça, c'est bizarre, Guitar Hero.
Activision, mais leur voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation, messieurs ? Et est-ce que ce PlayStation Phone, ce Xperia Play, vous fait envie ? Trazom.
Je ne sais pas si ça me fait envie. Enfin, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien changer de téléphone là.
Mais c'est vrai que t'as eu le temps, t'as un téléphone de merde.
Voilà, j'ai un téléphone que j'ai depuis un million d'années. Et donc, j'aimerais bien le changer. Mais je sais pas si j'attends l'iPhone 5 ou si je me prends celui-là. Je sais pas trop en fait, parce que les deux me plaisent pas mal. Moi, j'aime bien le côté original du bidule là, qui souffle.
Voilà, on rappelle justement la structure de ce téléphone qui en fait un appareil très différent, alors qu'il y a des trucs qui se passent complètement dingue.
Qui volent là, c'est n'importe quoi.
C'est bouffé qui nous donne à bouffer comme si on était des animaux en cage.
L'Xperia Play, c'est un slider, donc voilà, ça s'ouvre sur le côté. Et effectivement, ça dévoile vraiment une manette PlayStation avec la croix, une zone tactile qui émule deux sticks analogiques et les fameux boutons croix, triangle, carré, ainsi que les gâchettes et les R. Voilà, donc en gros, pour la première fois dans un téléphone.
Elle est vraiment dédiée à
une vraie manette de
au jeu, entre guillemets. Ouais. Bah, c'est plutôt bien pensé, effectivement, oui, parce qu'ils élargissent vraiment leur gamme. Hein. Ils n'ont pas présenté que ça, d'ailleurs. Ils ont présenté d'autres téléphones et. Et du coup, effectivement, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que ils veulent vraiment contre.
Voilà, il faut avoir l'image là parce que
c'était grave.
C'est pas possible d'expliquer. Voilà, il y a une énorme guimauve qui vient d'arriver.
Contre l'iPhone, quoi. Enfin, essayer de faire jeu égal avec l'iPhone, qui a déjà une gamme monumentale en termes de jeux, etc.
Il faudrait, on
verra comment ça va se passer, mais.
Ce que je trouve intéressant, surtout, c'est tout ce qui est autour, en fait. C'est l'aspect justement certification PlayStation, le développement de tout ce qui est PlayStation Suite, ouais. Voilà, qui permettra à Sony et au PlayStation Network de mettre vraiment un pas dans le monde de la téléphonie mobile et d'assurer un certain nombre de produits donc, qui vont permettre à la marque de s'imposer via des vecteurs inhabituels pour eux. Et je pense que ça a probablement de l'avenir. Je ne sais pas combien de gens qui ont l'habitude de jouer avec leur téléphone. C'est très, très, très bizarre de vous voir mâcher de la guimauve comme ça.
Continue comme si de rien n'était.
Je ne sais pas si ça va vraiment marcher, en fait. C'est ça que je me pose.
Justement, tu m'as fait peur parce que tu viens de dire ça a de l'avenir.
Mais l'ensemble de l'écosystème, l'écosystème, je pense, a de l'avenir. Mais je ne sais pas si le Xperia Play en lui-même, lui, va marcher.
Moi, franchement, je ne suis pas persuadé que ce soit un carton de vente.
Je pense qu'il va l'occuper le terrain, surtout, j'ai l'impression.
Par contre, voilà, Sony va être présent définitivement dans le marché du mobile. On sait aussi, on en parlera tout à l'heure, qu'il y a apparemment une PlayStation tablette qui va sortir. En gros, vraiment, Sony. Non, mais c'est peut-être pas très original, mais à la fois, Sony veut vraiment investir tous les segments de ce marché, avec la NGP cristallisée autour d'une offre qui va être la vraie offre premium, celle la plus chère, celle la plus riche en qualité technique. Mais justement, tout ça pour faire en sorte qu'avec le PlayStation Suite, il puisse être porté sur les téléphones Android, sur ce Xperia Play, sur cette fameuse PlayStation tablette, des liens avec la PS3, enfin voilà, vraiment avoir une gamme de jeux et des possibilités offertes aux éditeurs pour créer une vraie alternative par rapport à Android, et enfin surtout à la plateforme iOS. Et en cela, je trouve ça intéressant.
C'est fait de marque aussi, surtout.
Voilà, c'est ça.
C'est que si t'es dans l'univers PlayStation et que t'es fan de l'univers PlayStation, du coup, tu peux l'avoir sur toutes ces devices d'une manière ou d'une autre, quoi.
Et puis surtout, je pense que par rapport aux concurrents, ils vont regarder énormément si les gens aiment ce genre d'interface. Parce que c'est vrai qu'on se plaint beaucoup avec nos téléphones tactiles de « Ouais, il y a plein de jeux, ouais, ils sont plutôt jolis, mais c'est vrai que la prise en main, c'est pas vraiment ça. » Là, c'est vrai que c'est courageux, finalement, de la part de Sony,
coup, là, effectivement,
d'oser cette sorte de manette. C'est pas super gracieux à la fois, mais bon, si ça marche bien, ou en tout cas, c'est des très bons retours, peut-être que ça pourra influencer aussi d'autres développeurs chez Samsung, chez LG,
puis un grand écran aussi,
chez Apple.
Donc pour les jeux, effectivement, c'est presque idéal, quoi.
Mais au niveau de l'utilisateur, moi, alors justement, cet écran qui coulisse et qui dévoile une manette PlayStation, je pense que ça va faire peur à Madame Michu et tous les gens, en fait, qui n'ont pas d'affinité particulière avec elle. Mais justement, c'est là où j'en viens. C'est que quand tu es donc fan de PlayStation, de jeux vidéo, etc., est-ce que tu vois vraiment un intérêt? Est-ce que tu vois vraiment un intérêt à avoir ce PlayStation Phone, enfin ce Xperia Play, plutôt qu'une NGP, une PSP,
si t'as pas de téléphone,
une PS3, etc. Je pencherais plutôt pour un iPhone, pour un mouton pour suivre tout le monde et pour avoir tous les jeux de mes copains, et j'aurais une PSP parce que je suis un gamer. Tu es d'accord avec moi ? Merci.
Mais tu sais, justement, comme c'est un téléphone qui tourne sur Android, tu pourras avoir les fameux jeux que tout le monde a sur ton iPhone.
Ouais,
Angry Birds,
oui, tout à fait.
Par exemple.
Mais
Et puis il y a un inconnu qui est le prix. On sait pas encore. Ouais. Je sais que ça dépendra des opérateurs, etc. Dans chaque pays et dans chaque pays, mais effectivement, s'il est deux fois moins cher qu'un iPhone 5.
Oui, bien sûr. Je pense que. Non, mais tu as dit le bon terme. Tu parlais d'occupation de terrain. Ouais, c'est exactement ça, à mon avis. Parce que je pense pas qu'ils s'attendent à détrôner l'iPhone, loin de là.
Mais c'est pour ça qu'ils en ont fait plein.
Et il y a un truc quand même qui me paraît évident. Pour résumer ce que je disais, il a quand même un peu le cul entre deux chaises, en fait, ce device.
Ouais, c'est, je suis assez d'accord, effectivement. Ouais, tout à fait.
À suivre, en tout cas, sa sortie est prévue pour mars 2011.
Enfin, début de mars aux États-Unis, après le reste.
Ouais, exactement. Autre temps fort, on reste dans l'univers PlayStation, mais après on va parler de Microsoft. Hein. C'était le 1er février dernier, c'était à Londres, le PlayStation Experience, où vous avez pu voir Raon et Tiger, et bien de nombreux titres comme Uncharted 3, Journey, le nouveau jeu de Genova Chen, le créateur de Flower, Resistance 3, Infamous 2, et finalement vous en êtes ressorti plutôt avec de très belles impressions. Peut-être la seule qui était un peu contrastée, c'était Uncharted 3.
Tout à fait.
Pourquoi?
Parce qu'on a juste pas vu grand chose de nouveau. Hein. C'est-à-dire que, alors on a eu la possibilité de voir la fameuse démo du château en flammes, en 3D, etc.
Une fois de plus.
Et entre nous, on s'est dit, après c'est peut-être assez subjectif, mais est-ce que cette démo, c'était pas un petit peu too much ? C'est-à-dire que c'est très beau, mais ce qui compte aussi dans la mise en scène, c'est l'effet. C'est-à-dire,
le rythme.
Le rythme, exactement. Si tout se casse la tronche systématiquement, au bout de 20 secondes dans la baraque, si le niveau dure 5-6 minutes, à un moment, voilà, c'est abrutissant, quoi. On en a trop, on est gavé par tout ça. Et moi, j'ai juste ressenti un problème de rythme. C'était trop spectaculaire.
C'est qu'une démo.
Bien
ça
sûr.
Ça sera réglé après, je pense.
Parce que quand on voit comment ça a été géré, justement, le rythme dans le premier épisode et dans le deuxième, je me fais peu de soucis là-dessus, moi, perso. C'est normal de vouloir impressionner, d'en foutre plein la gueule avec une démo. Mais justement, l'un des plus grands points de la maîtrise de Uncharted 1 et 2, c'est ce rythme. Et c'est voilà quoi. C'est,
ça t'étonnerait qu'ils reviennent en arrière.
Ça m'étonnerait que voilà, ils changent de cap quoi.
Bah, espérons en tout cas.
Espérons. Ouais. Enfin, tous les cas, donc on n'a pas vu grand chose de neuf là-dessus malheureusement. Mais ce qu'on a vu, il y en a eu d'autres. Assez joli.
Voilà, comme Journée par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce titre qui a priori le jeu coup de cœur de PlayStation Experience.
De cœur, ça va être c'est le jeu qu'on retient le plus. Mais c'est vraiment, après c'est très personnel, c'est une sensibilité.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ce dont il en retourne.
C'est un projet qui reste encore assez mystérieux finalement dans l'absolu. C'est un jeu sur le voyage et la solitude où on interprète un personnage mystérieux, très longiligne comme ça.
Une écharpe magique.
Avec une écharpe magique qui avance dans un désert et qui va tenter de rejoindre une montagne qui se trouve à l'horizon.
Mais on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas évidemment tout ce qu'il va rencontrer en chemin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va pouvoir être accompagné par un autre joueur anonyme dont on connaîtra ni le pays, tout ni le nom, ni le sexe, ni quoi que ce soit. Et donc, au fur et à mesure, on va
on pourra communiquer quand même avec lui.
Des appels.
Son.
Il y a une touche en fait. Il y a deux touches dans le jeu. Il y a une touche pour sauter et planer. Et il y a une touche pour lancer un appel, sachant que cet appel donc se manifeste à l'écran par une boule un petit peu lumineuse qui part depuis le personnage et qui s'étend après.
Qui est unique à chaque joueur d'ailleurs, le petit
nom,
symbole et
Le symbole c'est le nom du personnage, mais c'est d'un orthogramme, enfin un alphabet qu'on connaît pas, un alphabet mystérieux. Et l'appel permettra aussi de déclencher différents mécanismes dans l'univers de jeu pour récolter de l'étoffe qui va rallonger l'écharpe du personnage et lui permettre de voler plus longtemps. Ou d'avoir certaines interactions supplémentaires avec le décor. Donc,
tu parlais du désert. On a vu aussi des environnements assez différents en fait.
Oui,
une espèce d'environnement sous-marin. Pas sous-marin, mais souterrain. Oui, mais parce qu'en fait, je pense à sous-marin parce qu'il y avait des espèces justement de là
plantes.
Où tu pouvais, des plantes où tu pouvais récolter des petites étoffes pour ton écharpe qui ressemblaient en fait à un milieu aquatique, quoi.
Oui, parce que
très flottant.
Ça a l'air d'être en suspension comme ça et de bouger de manière très douce comme ça, comme si c'était des anémones de mer en fait, sauf qu'on est dans une caverne bleutée. Avec une lumière un peu comme si c'était la lune qui éclairait l'ensemble.
On rappelle que c'est un titre qui est prévu sur le PlayStation Network exclusivement.
C'est le troisième et dernier jeu du contrat qu'il a signé avec Sony pour le moment. On ne sait pas s'il renouvellera après, mais en tous les cas, visuellement, c'est juste
c'est
splendide.
Très beau,
quoi. C'est vraiment magnifique. L'animation est incroyable. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un jeu simple comme ça quand on voit les images, les screenshots. Mais en fait, il y a plein d'effets. Le sable, par exemple, les traces qu'on laisse dans le sable, cette vision à perte de vue dans le désert, le scintillement du sable aussi autour de soi.
Quand le personnage surfe un peu comme ça sur le sable, c'est très bien animé aussi.
C'est-à-dire que quand tu vois le jeu, tu sais pas trop ce que tu dois faire, mais t'as une seule envie, c'est de te plonger dans cet univers et justement de l'explorer, de vivre ce voyage.
T'es pas dirigé exprès justement, enfin, je veux dire, c'est une volonté de... Parce que au-delà de... du gameplay, etc. Derrière les jeux, il y a donc des idées, des concepts, des créateurs, des artistes, pourquoi pas. En tout cas, Genova Chen, quand je l'avais vu à la Gamescom, il m'avait complètement retourné. Poufy a fait une vidéo bizarre sur son blog d'ailleurs à ce sujet. Mais n'empêche que voilà, c'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est un peu le mystère qui plane. Et puis t'as l'impression que quand il va nous donner la main, on sera dans ce mystère et dans cette découverte d'on ne sait quoi, on ne sait où.
Justement il y a une date de sortie envisagée? Période,
non, ça sortira
fenêtre
cette
de lancement,
c'est tout ce qu'on peut dire.
En 2011.
C'est tellement agréable aussi de voir que Sony met en avant un jeu comme ça. Bon, il y a plein de grands titres qui sont fabuleux, Resistance 3, Infamous, mais c'est l'action, et de voir un jeu comme ça qui propose autre chose, c'est vraiment très intéressant.
Et ben vivement un nouveau contact avec ceux de Journée, histoire de pouvoir vous en dire encore un peu plus. Eh bien, à la fois, c'est pas mal de garder un peu de mystère aussi.
Oui.
Resistance 3, Infamous 2, par lequel souhaitez-vous commencer, messieurs?
Je choisis Résistance 3.
Ok, et eh bien c'est parti, Julo a commencé à tirer les cartes.
Top.
Raon, Résistance 3.
Alors Résistance 3, plutôt une bonne surprise en ce qui me concerne, parce que je dois avouer que le premier et le deuxième m'avaient pas non plus retourné tant que ça. Et que par rapport
à adoré le deuxième.
Bah franchement ouais, effectivement c'est pas aussi magnifiquement réalisé que Killzone, ça je suis tout à fait d'accord. C'est beaucoup moins tapalé, etc.
Mais il y a un univers.
Au niveau de l'histoire, l'univers, etc. Enfin,
finalement, peut-être plus prenant qu'à Killzone, justement.
Bah, moi, je trouve ça plus prenant qu'à Killzone. Pour moi, ça m'étouffe, quoi. Tu rentres dans il y en a dans tous les sens, tu sais plus où aller. Alors que dans Résistance, tu prends ton temps.
Il y a de la respiration.
Voilà, exactement. Et t'es vraiment dans l'histoire, quoi.
Mais en tous les cas, sur la démo qu'on a jouée, ils ont fait des gros efforts au niveau technique, justement. C'est-à-dire que visuellement, il y a une meilleure direction artistique, c'est mieux foutu. Et c'est. Tu sais, c'est un petit peu. Il y a deux grandes catégories de shooters aujourd'hui. Il y a les shooters à la Call of Duty où t'es sur ou à la Killzone où t'es sur des rails et voilà quoi. Enfin, tu vas pas explorer beaucoup et tu te prends les scènes les unes après les autres. Et puis t'as les shooters plus à la Halo où c'est un peu plus ouvert, où il y a moyen de passer de différentes manières une scène en particulier. Et Resistance 3 a l'air de s'orienter plutôt vers cette seconde catégorie.
Et en termes narratifs,
bah, on n'a pas vu forcément grand-chose de l'histoire qui reste encore assez secrète. Et si je commence à en parler là, je vais spoiler la fin de Résistance 2.
Eh bien, il y avait quand même un singe géant en armure qui te bastonnait la tête.
C'était pas un singe.
Des voitures. Ah bon, c'était pas un gorille géant en armure?
Non, mais c'était un gros truc, mais effectivement, il balançait
des bagnoles. C'est un méca-gorille. C'est un méca-gorille.
Non, c'était pas comme dans Mindjack. Non, mais c'était assez surprenant. Il y a toujours c'est les armes aussi. C'est une grosse culture chez Insomniac. Hein. Ça les fait marrer d'inventer des nouveaux flingues.
De la LR.
Et donc, il y a
Ratchet.
Concept. Il y a des anciens flingues et des nouveaux qui reviennent avec toujours deux utilisations différentes, etc. Donc, on retrouve les gros trucs de résistance. Il va y avoir aussi un gros multijoueur. Donc, en tous les cas, j'étais plutôt agréablement surpris par cette petite démo qui était la première fois qu'on pouvait mettre la main sur le solo vraiment pour Resistance 3.
Et je crois qu'il en est de même avec un titre qui était assez cher parce que tu avais vraiment aimé le premier épisode, Infamous 2.
Ouais, alors là encore, c'est ce que j'expliquais dans les impressions depuis la première fois qu'on l'a vu et cette fois-ci encore. Il y a le même décalage entre Infamous 1 et Infamous 2 qu'il y avait entre Uncharted 1 et Uncharted 2 en termes de qualité technique, d'amélioration de la narration, etc.
J'ai été bluffé par l'animation. Hein. Travail d'animation qui est phénoménal. Tu vois, le personnage, vous le savez, qui monte au mur.
Une sorte de Spider-Man.
Une sorte de Spider-Man. Le
charisme en moins, quand même. Oui.
Oh, ça dépend. Je sais pas.
Non, mais c'est vrai qu'il est pas.
Non, mais quand on voit les phases de baston, quand voilà, il frappe les types avec son espèce de. Je sais pas, il y a une espèce de batte de baseball électrifiante là.
Ouais. Je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est une espèce de bâton avec un espèce de plot au bout avec un arc électrique entre les deux.
Mais tout paraît très
ralenti, dynamique. C'est-à-dire que toutes les scènes que vous avez pu voir dans les vidéos où il y a des gros plans de caméra qui tournent autour de Cole quand il tape, etc., c'est des caméras dynamiques. C'est-à-dire qu'on continue vraiment à agir pendant le combat. C'est pas de la cinématique. Quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et puis quand ça pète dans tous les sens dans la ville, c'est juste.
Et c'est agréable à jouer ?
Ah, c'est super agréable à jouer. Mais le premier l'était aussi. Hein.
Puis l'environnement façon un peu Nouvelle-Orléans, là, bah,
c'est la nouvelle ville de New Marais. Ouais.
Traz.
Et puis sinon, je voulais juste rajouter qu'il y a. Espèce de dualité à la noix, je sais pas s'il y avait ça dans le premier.
Si, il y avait dans le premier.
Où tu peux devenir très
mauvais. C'était très binaire dans le premier.
Dans le premier, c'était vraiment, t'es arrivé à un moment crucial où on te faisait choisir à gauche ou à droite, quoi. C'est-à-dire gentil ou méchant. Mm-hmm. Là, c'est toujours un peu le même principe, sauf que sur la même mission, suivant que tu vas t'allier avec tel ou tel autre personnage, tu vas choisir tel ou tel plan, telle ou telle manière d'aborder la mission, et ça va influer sur ta moralité. Donc c'est un peu mieux inscrit dans l'histoire, mais ça reste quand même super binaire.
Très bien. Bon, et bien finalement,
tu t'es dit.
4 jeux. Et 4 jeux qui vous ont plutôt raisonnablement bien emballé, Tiger Ran.
Oui, tout à fait.
Ah bah 2011, c'est l'année de la PS3.
Un sacré lag.
Depuis le temps qu'on le dit, à un moment, ça va arriver.
Il y avait du moins bon aussi.
Il faut le dire alors.
Ah, bah oui, il y avait le.
Très rapidement.
Bon, très rapidement, le PlayStation Movie Rose, qui est une espèce
de
mini-game qui mixe les univers de Ratchet & Clank, de Sly, de Jack and Dexter. Premier truc qui fait très peur, c'est le chara-design. C'est-à-dire que Sly. Qui est un raton laveur plutôt sympathique n'a jamais été aussi effrayant.
C'est-à-dire que tu fais un gosse devant, il chiale.
Non, mais grave, il fait super peur. Jack and Dexter, c'est pareil, ils ont des tronches avec des sourires forcés, c'est abominable. Et puis les mini-jeux, ça va pas très loin, quoi. C'est en fait du frisbee ou du bowling, mais remanié dans des univers où ça explose.
On cherche toujours le vrai grand jeu du PlayStation Move, quoi.
Et ouais, tout à vu Et sinon, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre?
On a vu Socom aussi.
On
a vu le multijoueur, mais il se présente très bien.
Le multi qui est pas mal, voilà, qui mise beaucoup sur son côté côté très militaire, très oui, les vraies
là,
armes.
Là,
très,
là tout à l'heure, j'entendais du. Franchement, c'est chouette. C'est là, j'ai entendu pas mal.
Oui, voilà, oui.
Ça a l'air beaucoup plus contrasté.
Comme c'est, un peu aussi très particulier. Mmh. C'est-à-dire que ça s'adresse pas non plus à tout le monde, j'ai l'impression. C'est très. Oh.
Socom ?
Ouais.
Oh, c'est classique, je pense, quand même.
Ouais. Ça,
non,
ça,
mais je veux dire,
en tout cas.
Non, non mais pardon, hein, peut-être que je suis dans la caricature, mais moi j'imagine que des mecs fans de la NRA et tout, comme ça qui jouent à Socom. Je me trompe peut-être, hein,
mais je crois.
Ok. Okay. Bon, pardon pour ceux qui aiment Socom.
Ok, bon.
La NGP alors, elle est comment?
Il n'y avait pas la NGP et il n'y avait pas non plus The
Last Guardian.
Il n'y avait pas. Ah oui, alors là, pour ceux qui ont la vidéo, c'était un moment unique. Voilà.
200 premiers en plus.
On ne peut pas en dire plus. Et il n'y avait pas non plus The Last Guardian qui était absent. Allez, on va passer maintenant, et là vous allez voir à partir de maintenant. Si vous aimez Raon, bien savourez. Nous, on va partir, on va laisser Raon parce que c'est le Microsoft Showcase et ensuite des impressions sur L.A. Noir et ça. Et tout ça, eh bien, il n'y a qu'un Raon qui l'a vu.
C'est un tunnel, Raon.
En tout cas, s'il fait le podcast tout seul. C'était le 24 février dernier.
Non, mais on va la faire jouer, on va la faire vite.
Alors bah oui, mais il y a des choses intéressantes quand même. Alors, Gears 3, il y avait du multi.
Il y avait du multi, on n'a pas vu le solo, c'était le solo que j'avais vraiment envie de voir. Mais bon, le multi, ils ont révélé un nouveau, entre guillemets, mode de jeu qui.
Il y avait un big announcement.
Un nouveau multi. Oui, le big announcement, c'était la bêta qui aura lieu en mars, donc bientôt, à laquelle je vous conseille de participer. Non seulement parce qu'il y aura des choses à débloquer que vous ne pourrez avoir que dans cette bêta, mais aussi parce que ça se présente quand même très bien en tant que jeu multijoueur. Quoi. Enfin, c'est le second raffiné avec pas mal de choses en termes d'interface, en termes d'accessibilité surtout.
T'en es ressorti quand même assez convaincu de ce multi. Hein.
Ah bah oui, mais c'est
très efficace.
Gears a jamais été un mauvais jeu multi, mais maintenant il est d'autant plus accessible parce que.
Encore plus raffiné.
Ouais, mais c'est surtout accessible. C'est-à-dire qu'ils ont mieux indiqué les objectifs pour les nouveaux. Ils ont mis en place certains systèmes pour que tu te sois moins frustré si tu t'en prends plein la gueule dès le départ, etc. Ouais. Et développer ce nouveau mode de jeu qui est donc en fait un team deathmatch. Donc ça fait un peu rire.
C'est très nouveau ça.
C'est-à-dire qu'effectivement, tu dis ça. Il y a un nouveau mode de jeu. Ça s'appelle le team deathmatch. Ça fait un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un team deathmatch matinée de Gears puisque ça se joue pas au nombre de frags comme dans un team deathmatch classique, mais avec un certain nombre de respawn par équipe. Et donc au bout d'un moment, si tes coéquipiers qui ont cramé plein de vie, tu deviendras un des derniers dans la mêlée et les autres vont t'observer pendant ce temps-là. Ça participe à la construction d'une tension en fin de partie et ça permet surtout à ceux qui se font éjecter normalement dans les modes classiques de ne pas avoir forcément à attendre longtemps avant qu'un round redémarre.
D'accord.
Donc c'est aussi par souci d'accessibilité que tu ne restes pas sur le banc de touche comme un con quand t'es un noob le temps que la partie se termine. Quoi. Donc c'était plutôt intéressant et puis visuellement c'est quand même vraiment magnifique.
C'est vraiment beau,
ça défonce grave. On visuellement, c'est
donc,
incroyable.
Même si le big announcement était un peu décevant, ce que tu as pu voir s'annonce plutôt très encourageant.
Oui, on attendra d'avoir le solo.
Le big announcement, c'était pas The Stringer?
Non.
Ah bon.
Alors,
Gunstringer.
Gunstringer, pardon. Stringer.
Alors, Gunstringer, c'est un jeu Kinect développé par les gars qui ont fait Explosion Man et Zomo, Twisted Pixel. Le principe est tout bête. Ça se joue donc à deux mains. La main gauche dirige la marionnette qui est le héros du jeu, le fameux Gunstringer, et la main droite, le réticule avec lequel tu vas pouvoir tirer à l'écran. Donc, ça joue un petit peu comme Child of Eden en fait, au niveau du tir. C'est-à-dire, tu t'accroches les cibles avec la main et puis ensuite tu fais un mouvement vers l'avant pour balancer tes tirs. L'univers a l'air complètement barré. Ça mélange en fait des images réelles filmées de gens qui sont en train de regarder un spectacle en fait dans une salle de théâtre et les images en 3D de la marionnette et de ce qu'il y a autour. Je pense pas que ce sera un jeu incroyablement génial, mais c'est la première fois que j'ai pu jouer à Kinect assis déjà.
Oui.
Et ça marche bien. Donc à voir, ça sera un jeu en téléchargement sur Xbox Live Arcade. Ce qui était pour moi vraiment le gros truc.
Ah voilà, on y arrive, ça y est, là.
C'est quand même Batman.
C'est
la première fois, la première fois qu'on voit Arkham City tourner en live, quoi. J'ai qu'une seule hâte, moi, c'est de mettre mes mains dessus, quoi, parce que bon, le premier était génial. Et le second, c'est-à-dire que tu vois la proportion de décor extérieur et décor intérieur qu'il y a dans le premier, cette fois-ci c'est inversé.
Ouais.
Ça se passe vachement à l'extérieur dans la ville.
Tu m'as dit qu'en rentrant que c'était gigantesque.
Ça a l'air vraiment gigantesque.
C'est une sorte de GTA-like du coup ? Avec des missions à l'intérieur de la ville, il se passe plein de choses.
Il se passe des trucs à l'extérieur en fait. Mm-hmm. Donc dans la ville, il y a des mecs qui se baladent. Parce qu'en fait, c'est un quartier de sécurité. Arkham City, c'est un quartier divisé en sous-district dans la ville.
On n'est pas dans Gotham, c'est juste Arkham.
C'est Arkham City, ouais.
D'accord.
Mais qui est une partie de la ville qui est clôturée en fait, dans laquelle ils ont mis.
Mais il n'y a que des freaks du coup.
Il n'y a que des freaks, ouais. Okay. En gros. Il y a donc des mécaniques nouvelles parce que Batman peut carrément maintenant suivre les courants, reprendre de l'altitude avec son grappin et se balader vraiment en ville d'immeuble en immeuble. Et aussi, par exemple, tu as des hélicos qui surveillent le district de la police. Tu peux t'accrocher aux hélicos, suivre les patrouilles, essayer de repérer des indices. Ils ont vraiment amélioré plein de trucs, le combat à main nue aussi. Ils ont doublé toutes les animations de Batman. C'est encore plus fluide qu'avant, t'as plein de moves ultra classieux avec des takedowns de malade.
Graphiquement, ça n'a pas énormément évolué, mais
c'est aussi beau que le précédent, mais sauf que ils ont joué sur l'échelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de mecs à l'écran. Il y a une scène notamment avec Double Face qui capture donc Catwoman au début du chapitre 1 qu'ils nous ont montré, où des sbires, je te jure, il y a une trentaine de mecs à l'écran.
C'est une trentaine de mecs avec plein de sbires.
C'est des choses que t'avais pas dans le précédent. Donc voilà. En tous les cas, ils ont l'air d'avoir pensé à plein de petits trucs. Ils ont raffiné aussi le détective mode.
C'était déjà un grand jeu, hein, le premier.
Le premier était bien, mais au lieu de suivre, par exemple, une pauvre trace de tabac ou de machin comme dans le premier, t'as vraiment des phases d'enquête un peu plus développées où tu vas commencer à noter vraiment des indices. Par exemple, à un moment, tu manques de te faire sniper, tu regardes le point d'entrée, le point de sortie de la balle pour essayer de localiser l'endroit d'où est parti le tir, tu ressors du truc. T'as une interaction aussi directement de l'intérieur vers l'extérieur. Tu peux sauter, par exemple, à travers d'une fenêtre et te retrouver dans la rue, en contrebas, pour éviter une explosion ou des choses comme ça. Donc ça a l'air vraiment assez impressionnant.
Pour toi, le jeu de ce Microsoft Showcase.
Bah oui, et pourtant ça n'est pas une exclue.
D'accord. On passe rapidement sur Child of Eden, auquel tu as pu rejouer dans une version bien plus aboutie. Là,
bah
visiblement.
Oui. Bah alors vous n'aviez pas d'interface dessus quand vous avez pu jouer à votre version.
Aucune interface.
Voilà, moi j'en avais une. Il y avait une fleur en bas à droite pour la vie. Il y avait la vie du boss aussi. Il y avait les bombes en bas à gauche, etc. Donc une version plus aboutie. Ouais. Et moi j'ai pas eu de soucis avec Kinect. Il y avait quasiment pas de lag.
D'accord.
C'était plutôt jouable. Par contre, moi j'ai joué 20 minutes et après j'en pouvais plus.
Il faut faire du sport, monsieur.
Bah
quand
même. Ouais, mais attends, mais attendez pendant 20 minutes, je te jure.
Ouais. Il faut bouger, quoi. Donc en tout cas, plus de lag parce que
c'était ce qui nous avait vraiment inquiété le plus.
Non, là, a priori, ils ont fait des gros progrès.
Kinect s'améliore.
Oui.
Très bien.
Ils apprennent à bosser avec. Et puis visuellement, ça défonce. Nous, on a vu un niveau, je sais pas si c'était le même que vous, je pense pas, mais qui était très floral. Vraiment.
Non, c'est peut-être un troisième niveau qu'ils t'ont montré. Parce que nous, on avait vu deux. Enfin, il y avait eu le tout premier de le 3, un deuxième au TGS. Et là, j'imagine qu'ils en ont peut-être montré encore un nouveau.
C'était un nouveau.
C'était avec la baleine, etc.
Non, nous, c'était vraiment que des fleurs, un univers complètement floral, hyper coloré.
Non, mais c'est magnifique. Et puis surtout, la musique est bien. Ouais. Et nous, on y avait joué avec le casque sur la tronche. Enfin, t'es dedans, quoi. Et c'est un trip, en fait.
C'est ça qu'il faut y jouer.
Sur la tronche.
Et de la bouche, hein, pas sur les oreilles, sur la tronche. Et puis le dernier titre qu'on pouvait souligner, c'était Age of Empires Online.
Online, ouais. Alors, est extrêmement difficile de se faire une idée sur le jeu parce que c'est un jeu stratégie temps réel qui mélange des aspects MMO, etc., avec des milliards d'objets, de trucs à faire.
Il y a du versus fighting aussi dedans.
Je crois pas, non, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Non, mais donc ça a été difficile de se faire vraiment une opinion là-dessus, mais en tous les cas, ce qui est marrant, c'est que c'est un free-to-play. Avec des trucs à payer, tu vois, c'est ce nouveau modèle économique. Si tu veux débloquer certaines features du jeu ou avoir accès à certaines civilisations, etc., faut payer. Mais en tous les cas, ça a l'air plutôt bien foutu et vraiment intéressant sur PC. Mais on vous en reparlera parce qu'il y a une bêta qui va s'ouvrir très bientôt et on va pouvoir y jouer.
Eh ben, tu sais quoi, Raon, merci pour toutes ces informations. On va te laisser respirer quelques secondes. On revient te voir dans quelques instants pour nous parler de Elle est Noire, très attendue, de Deus Ex Human Revolution, auquel tu as pu jouer encore plus, et de Duke Nukem Forever. Mais avant cela, Traz, tu vas pouvoir prendre le micro avec ta tête de Picasso et nous parler un petit peu de Lego Pirates des Caraïbes.
Donc je résume, à ma gauche Deus Ex, Duke Nukem, Elle est Noire, à ma droite Pirates des Caraïbes.
Mais Lego, on se retrouve.
Attention, les Lego cartonnent toujours. Ça marche très bien.
C'est vrai.
Vraiment.
Parce
que tu m'as saoulé tout à l'heure.
Très joli.
Enfin bref.
Très joli. Le maître a toujours une longueur d'avance.
Donc alors je précise quand même que j'ai pas joué à tous les jeux Lego.
C'est le moment où le podcast part.
Je me suis quand même fait Indiana Jones, notamment Star Wars, etc. Que j'ai adoré. Et là, j'avoue que celui-ci, pour ceux qui aiment la fameuse trilogie Pirates des Caraïbes. Vous allez retrouver exactement les mêmes personnages dans le jeu, avec
Tu joues Jack Sparrow?
Jack Sparrow qui titube comme ça, qui a une marche un petit peu chancelante.
Alors j'aimerais que tu nous le refasses assez pour faire la vidéo parce que je pense que
là, c'est
Jack
un
Sparrow
qui marche un peu comme ça là, avec ses jambes et tout.
Voilà, le nouveau Johnny Depp.
C'est ça.
Le Depp.
Donc, c'est nul.
Non. Bon, non, mais attendez, je reviens à votre niveau de merde. Enfin bref.
Du podcast qui va être dur.
Donc voilà, bah, comme d'habitude, dans ces systèmes Lego avec plein de petites choses à reconstruire une fois qu'on va dessus avec ses petits doigts. T'as plein de petits puzzles, etc. Maintenant, t'as un petit chien que tu peux. à qui tu peux
donc
demander d'aller, à qui tu peux demander d'aller creuser dans des trous.
De faire des petits trous, mais
dans la terre, pardon, pour récupérer des objets.
Quand on m'a demandé de faire ça au scout, je suis parti.
Quoi? Rien, pardon. On m'a demandé de creuser dans la terre, d'accord, ok.
Pourquoi est-ce qu'on creuse de la terre?
Je peux pas rester très, très sérieux avec ces imbéciles.
Il y a des trucs vraiment nouveaux par rapport aux autres Lego.
Ça n'a rien à voir, là, c'est pas. Je peux rien dire.
Oublie les traces. Laisse tomber.
Non, non, mais il prend évidemment racine, si je peux dire, par rapport aux deux premiers épisodes. Et aussi, il mêle des séquences du troisième. Mais ça, on n'a pas pu les voir parce qu'évidemment, il ne voulait pas encore les montrer. Mais en tout cas,
c'est pas le quatrième plutôt.
Il devrait faire un. Oh, il y a quatrième, pardon, ouais, excuse-moi. Ouais. Il prend effectivement des séquences des trois premiers épisodes
et du quatrième,
qu'on n'a pas encore pu voir évidemment. On n'a pas vu grand-chose, on a vu que deux niveaux en fait. Hein.
Donc,
c'était un peu restreint, on a pu jouer.
Mais ça se présente quand bien. Même.
Mais en tout cas, ouais, ça se présente vraiment bien. Ceux qui aiment la série Lego Bidule, franchement, c'est nickel. Pour moi, il est aussi bien qu'à Indiana Jones, voire mieux par rapport au fait au personnage et ce que ça représente, quoi, là, tout simplement.
On est totalement désolé, Trace, on sait pas ce qui s'est passé, hein. Mais tu vas pouvoir continuer à t'exprimer parce que tu as vu un titre qui est vraiment intéressant. Tiger l'avait vu il y a quelques mois. Ouais. Il s'agit du nouveau Spyro,
des
petites figurines, et donc c'est une nouvelle manière de jouer un petit peu. Et on imagine, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu? Parce que ça peut faire un massacre
c'est
dans
Skylanders,
les cours de...
le titre, c'est ça. Ouais.
Voilà, dans les cours d'école.
Tout à fait. Bah, en fait, c'est, toi, tu l'avais vu il y a quelques mois, il y a très très longtemps déjà.
C'était mars dernier, donc oui, c'est il y a un moment quand même.
Oui, ça fait un an. D'accord, ok, je comprends mieux alors. Bah, en fait, le principe, c'est d'avoir des personnages en jouets, donc des vrais jouets, des figurines, que tu poses sur une espèce de...
Socle magique
ou petite plateforme ronde. Donc tu poses les personnages dessus. Et une fois que tu les as posés dessus, bah, ils se
matérialisent
dans le jeu.
C'est magique.
Avec toutes leurs caractéristiques que tu auras fait gonfler, entre guillemets, dans le jeu. Donc c'est un vrai petit jeu RPG aventure.
En fait, c'est le comment on pourrait appeler ça? C'est pas un DLC, vu que c'est pas un download content. C'est le figurine content ultime.
Bah, c'est parce que si tu veux avoir. C'est comme ton... les abonnements Panini, en fait.
Bah ouais, mais c'est pire que ça. Bah,
là, c'est réalité virtuelle, mais à l'envers. Quoi.
Mais non, parce que tu peux mettre des. Moi, ce que j'avais vu en tout cas, c'est que tu pouvais mettre des figurines de personnages, donc Spyro et ses copains, des décors, des portes
de
pour entrer dans un château. Donc va falloir acheter des boîtes de jouets si tu veux avoir tous les personnages et tous
tout
les trucs.
Donc il y a une petite puce électronique dans
une
chaque
puce
figurine.
RFID, j'imagine.
Comment?
Ça doit être une puce RFID.
Oui, je crois que c'est ça.
Une puce RFID.
Ouais, non, je crois que c'est ça. C'est comme les nouveaux code barres, sauf qu'à l'intérieur, ça a des informations.
Non, ça a l'air plus complexe que ça.
Alors, moi, c'était prévu que sur Wii, par contre.
Comment?
Moi, c'était prévu que sur Wii.
Ouais, mais moi, j'ai un petit peu tiré les verres du nez et ça sera sur Xbox 360 et PS3.
D'accord. Apprends de ton maître, Tiger. Voilà. Tire les verres du nez.
Donc, il y aura sûrement un pack avec le socle magique, les figurines.
Mais t'as besoin de rien d'autre. Ça joue pas genre avec une caméra ou un truc comme ça.
Ah non, pas du tout.
Non, c'est vrai. Mais c'est vraiment. Pour le coup, c'est vrai que c'est un peu magique parce que tu poses le personnage.
C'est instantané quasiment.
Tel quel, il apparaît à l'écran.
Le socle, il est relié à la console?
Oui.
Oui, tout à fait.
Il est branché avec, en fait.
Oui.
D'accord.
Et non, c'est vraiment bien
fait. C'est intéressant.
Après, ça, on peut penser que ça peut être que pour les gamins, etc. Oui. Parce que, comme tu disais, ils vont s'échanger. Je sais pas s'ils peuvent s'échanger les figurines. Parce
S'ils en ont monté certaines, etc. Et du coup, tu t'échanges une figurine contre trois plus faibles. Enfin, tu vois, des trucs comme pour les billes à l'époque.
Ouais, non, mais je suis pas sûr. Hein, parce que, comme je te disais, dans chaque figurine, t'as toutes les informations que t'as récoltées pendant le jeu. Mmh. Et comme c'est des figurines qui sont quand même vachement bien foutues, et à mon avis, elles seront pas forcément données.
Mais tu peux surtout te réunir entre potes et chacun mettant ses figurines
tu prends ta figurine
à contribution.
Effectivement, et tu joues avec lui la bidule.
Tu te ramales ta sauvegarde avec ta figurine en fait.
Exactement. Ouais.
D'accord.
Donc tu peux jouer avec un autre mec, etc.
À suivre. Allez, c'est
bien.
Le moment de retrouver après cette petite pause, mais qui est sur des titres intéressants quand même, avec Deus Ex, Duke Nukem, Elenoir. On va commencer par Elenoir, tiens.
Ah, d'accord. Ok.
Ah, c'est la surprise.
Rappelle-nous que tu as perdu tout ton texte.
Alors, oui, alors elle est noire, très attendue.
Bah oui.
Tim Bondi, Rockstar.
Tim Bondi, même, ils disent. Alors, en fait, donc, déjà, pour le premier truc qui nous préoccupait un petit peu, c'était l'aspect action, parce que donc, Tim Bondi, The Getaway, machin, on se disait, les scènes d'action, ça va être un peu la merde. J'ai pu essayer une scène en combat à main nue au beau milieu d'une enquête qui m'a plutôt rassuré dans l'ensemble. C'est-à-dire que ça reste jouable, c'était assez péchu.
Rassuré, mais t'as pas l'air totalement convaincu quand même.
Mais effectivement, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus. Tu sens que ce sera pas le point fort du jeu, quoi. Ça, c'est certain.
Ce qu'on rappelle quand même que la team Bondi, donc, c'est les créateurs de The Getaway, qui était un titre très attendu, riche de moult promesses, et qui était une grosse daube en fait.
À l'arrivée, oui. Mais
voilà,
cette fois-ci,
en termes de gameplay.
Cette fois-ci, il y a Rockstar quand même qui file un gros coup de main derrière.
Ouais. Tout
et puis, il y a les courses-poursuites aussi. Donc là, par contre, on est dans plein GTA. C'est-à-dire que ça marche comme dans GTA. Si tu commences à poursuivre un mec qui est en délit de fuite,
bah, Mafia 2.
T'as l'impression de faire une poursuite dans GTA, puisque la ville est complètement ouverte. Là, Los Angeles, ils ont modélisé d'après les plans de 1947. Et au-delà de ça, après, tout l'aspect vraiment intéressant du jeu, c'est-à-dire l'enquête, c'est vraiment vraiment c'est hyper immersif, quoi. C'est-à-dire que t'arrives sur une, t'as ton petit briefing, après tu descends d'une commissariat, tu rentres dans ta voiture, tu vas sur la scène de crime, tu commences à mater le cadavre, et puis au fur et à mesure que tu regardes des endroits particuliers du cadavre, la caméra zoom dessus et tu peux par exemple prendre la main d'une nana et commencer à regarder un petit peu les plaies sous toutes les coutures en manipulant le stick analogique comme ça, jusqu'à trouver vraiment l'endroit particulier où il y a le détail qui est important.
Mais sur quasiment tous les éléments du décor, parce que s'il n'y a qu'un truc que tu peux choper, tu vas dire ah il est là l'indice, alors ok.
Tu peux le faire sur tous les indices que tu notes, c'est-à-dire les objets. Par exemple, tu trouves une carte de bibliothèque déchirée qui porte la moitié du nom de la victime et la moitié de son adresse. Tu prends le ticket, tu commences à regarder partout. Tu peux aussi trouver.
Mais il y a des trucs qui servent à rien. Je veux dire, tu peux les observer.
Il y a des
fausses pistes, quoi.
Oui, il y a des fausses pistes aussi. Par exemple, là, moi, j'avais commencé à évidemment récupérer tous les objets en me disant c'est tous des indices, mais j'ai trouvé des trucs. Genre, c'était un pauvre bidon d'huile qui servait à rien.
Et tu peux tout prendre avec toi.
Tu les prends pas avec toi, en fait. Tu les prends sur la scène de crime ou l'endroit où tu te trouves. Tu les observes, tu notes dans ton carnet ce qui est intéressant comme information, et puis tu les reposes.
Et c'est pas trop figé.
Non,
genre
alors l'animation.
Le personnage qui prend le truc avec une espèce de 3D un peu.
Non, au contraire, c'est plutôt, fluide, plutôt bien fait. Le personnage lui-même que tu diriges, donc normalement, un petit peu à la Heavy Rain, est beaucoup plus. Tu sais, dans Heavy Rain, c'est quand même un petit peu pantin qui tourne un peu comme ça.
Justement.
Là, c'est pas le cas.
Les grosses têtes. Est-ce qu'ils ont des grosses têtes, les personnages? Parce qu'on se faisait
j'ai pas trouvé.
Surtout les trailers, ça me saute à la gueule.
Genre c'est le mode Big Head de GoldenEye, quoi.
Ouais. Enfin, mais je trouve pas là, mais... que ça, moi.
Bah, en tous les cas, moi, dans le jeu, ça m'a pas choqué.
On y joue, focalisé sur. Ouais.
Je pense que c'est un détail. Une fois que tu l'as vu, tu ne vois plus que ça.
Mais je le vois, je trouve. Par exemple, Non, mais hier, j'ai vu un film avec des gens qui portent chapeau, comme dans.
Oui, ça fait forcément.
Et finalement, ça fait ressortir. Quand tu portes une chemise serrée à l'ancienne, genre très proche de ton cou, plus un chapeau.
C'était quoi ce film?
C'était Les Évadés. Ça tasse un peu ta tête, ta carrure, et ça fait une plus grosse tête qui ressort. Donc,
C'est les vêtements des années 40, ça doit
Je trouve aussi. Ouais.
Bon, en tous les cas, en y jouant, ça m'a pas choqué.
C'est pas ça qui m'empêchera de jouer au jeu.
Ah oui,
moi
non.
Très excité par ce jeu.
Pareil.
Et au niveau de l'histoire, de l'ambiance, etc.
Alors, au niveau de la narration, c'est vraiment très très intéressant. D'abord, c'est bien joué, hein, c'est que des acteurs confirmés, etc. Et puis, comme t'as en plus cette fameuse technologie du motion scan qui est incroyable,
franchement.
Mais alors, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi les interrogatoires. Donc les enquêtes, c'est assez simple. Hein. Tu regardes, tu notes dans ton carnet, tu notes tes indices, etc. Tu récupères, et puis au fur et à mesure, si tu récupères une adresse, tu peux aller visiter cette adresse. Si tu récupères un nom, tu peux aller te renseigner sur ce mec-là, etc. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, tu remontes des pistes. Et puis, tu as les interrogatoires. Et alors là, par contre, en interrogatoire, j'ai été une grosse merde. Je me suis planté, mais alors laisse tomber. Donc, tu as trois options à chaque interrogatoire.
C'est intéressant, ça veut dire que c'est pas si évident que ça.
Ah non, c'est pas évident que ça. C'est pas si évident que ça parce que
en
fait, tu sais pas ce que tu vas dire. Non, ça va. Non, enfin, en tous les cas, cool. Dans ce que j'ai vu pour l'instant, non. Donc, quand tu interroges un témoin ou un suspect, trois options à chaque fois, à chaque étape en fait du dialogue, vérité, doute ou mensonge. Si tu choisis mensonge, ça veut dire que tu dis en gros vous mentez et tu dois sortir de ton carnet un indice, un truc pour appuyer le mensonge, pour dire non, ne me prenez pas pour un abruti. Exemple, là j'interroge la propriétaire de l'appartement de la victime. Qui me dit je n'ai rien entendu de spécial la nuit dernière, c'est passé, j'avais vu la chambre auparavant avec une fenêtre pétée, un pied de biche dehors, etc. Donc bon, je lui fais mensonge, je lui dis attendez, la fenêtre a été pétée, etc. Et donc elle fait ok d'accord, oui mais ne l'ébruitez pas, moi j'ai pas envie que mon business parte en vrille parce qu'il y a eu une effraction. Donc ça, c'est un exemple. Après, ça devient plus compliqué quand tu dis vérité ou doute. Doute, tu vas essayer de soutirer des informations à un mec ou une nana dont tu sens qu'elle te dit pas tout, peut-être. Et vérité, c'est tu vas dans son sens pour qu'elle continue de te parler.
Mais c'est un peu à la Mass Effect, en fait. T'as 3 degrés de conversation.
Oui, sauf que dans Mass Effect, tu sais exactement ce que tu vas dire.
À quoi ça correspond.
Et pas du tout dans Elle est noire.
Ah oui, ok.
Et là est le problème. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir jauger de tous les indices que tu as déjà auparavant et de ce que la personne t'a déjà dit et de son expression faciale. À tout moment, pendant un témoignage, tu peux d'une part consulter ton carnet pour voir tout ce que tu as vu avant, tout ce qu'elle t'a dit avant et tous les indices que tu as récupérés, mais aussi son visage avec le stick droit. Tu baisses le carnet, tu la regardes et tu vois la personne
génial, ça.
Qui peut avoir une attitude un peu nerveuse, etc. Donc, c'est le seul endroit où ça peut être un peu surjoué parce que comme c'est des boucles, tu vois qui tournent, t'as l'impression qu'il est un peu toujours voilà. Mais moi, je me suis planté. Alors j'ai pas assez regardé les gens, leur attitude, etc. Et j'ai été trop suspicieux de tout le monde, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai braqué deux témoins.
Qui t'as pas confiance, toi. Non, voilà. Fait pas.
Et mais du coup, j'ai braqué le mari, j'ai braqué la nana, etc. Et du coup, ils ont arrêté de me dire des trucs. Heureusement, j'ai pas été trop mauvais en enquête, par contre. Donc j'avais les indices qui m'ont permis quand même d'obtenir les adresses suivantes et de résoudre au final l'affaire.
Okay. Et de foutre tout le monde sur la chaise électrique.
Non mais vraiment l'ambiance est mortelle.
Donc ça s'annonce vraiment très bien.
Oui, et c'est très mature hein. Par exemple quand tu vas regarder un cadavre, ils ont pas pris de pincettes hein. Tu vois le crâne défoncé, les plaies, etc. Tu regardes bien tout, enfin c'est
ok. Voilà. Bon, le jeu est toujours prévu pour le mois de mai.
Oui.
Ok. On va passer rapidement parce qu'on a déjà dans d'autres podcasts parlé longuement à la fois de Deus Ex et de Duke Nukem Forever, mais est-ce qu'il y aurait certains éléments notables vraiment nouveaux que tu as pu découvrir?
Alors pas pour Duke, si ce n'est que c'est vraiment ce qu'on attendait. Voilà, pour la faire simple, c'est le même gameplay qu'avant, le même humour débile, c'est très varié et ça plaira incontestablement aux fans, tandis que ça fera probablement un peu vieux jeu pour les autres.
Ouais.
Et puis pour Deus Ex, passer le tutoriel qu'on avait pu jouer, on a pu continuer à un peu plus avant dans ce début de jeu et pour la faire simple, moi j'en peux plus d'attendre quoi.
Voilà. Ok. Donc, c'est assez clair.
C'est assez proche vraiment en termes de sentiment de ce qu'on avait à l'époque du premier Deus Ex. T'as pas l'impression d'avoir 3 voies télescopées dès le départ, au contraire. C'est très immersif, la narration est excellente. Techniquement, ils s'en sont très bien sortis.
Mmh. Ça va être un de ces jeux qu'on adore, dont on adore discuter après à la rédac, chacun y joue chez soi.
Parce que les options, parce que tout l'aspect RPG du jeu se retrouve en fait finalement dans le système des augmentations. Et vraiment, tu peux choisir des tonnes de voies différentes pour faire le perso que tu veux. Soit un mec un gros balèze qui a pour empiler des grosses bennes et se balader sur les toits, soit un mec plus subtil, etc. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des dizaines et des dizaines d'augmentations, chacune avec leur propre niveau. En fonction de ça, bah, y a des tas de choses que tu verras pas parce que tu n'auras pas accès, soit parce que tu n'es pas un assez bon hacker, soit parce que tu n'es pas assez discret pour passer
c'est
à tel endroit.
C'est vraiment génial de comparer les expériences.
Bah ouais, je pense aussi.
Ok. Eh bien, on va conclure ce podcast dédié au retour de l'actualité du mois de février, qu'on a vraiment voulu centrer sur les tests et les impressions. C'est pour ça que, contrairement à d'habitude, on va passer extraordinairement rapidement sur les petites informations, mais qui étaient à la fois moins nombreuses ce mois-ci. Alors, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler des 25 ans de Zelda. C'était le 21 février 1986 qu'il est né au Japon. Un bel anniversaire à Zelda. Et pour tous ceux qui se posaient et qui nous posaient la question de savoir mais vous allez faire un podcast dédié à Zelda ou ce genre de choses, oui, il est prévu, mais il sera prévu au moment de la sortie du prochain Zelda, The Skyward Sword.
Zord.
Sword.
Une aventure cosmique.
Voilà.
Avec le Skyward Sword.
Bon, le prochain Zelda sur Wii, qui sortira dans le courant de l'année. Et donc là, effectivement.
Zelda SS.
On reviendra sur Zelda dans un podcast. Il y avait aussi quelques bribes d'informations sur God of War 4, où on sait qu'apparemment, il y aura un mode coop qui sera développé pour cet épisode. Et que ce sera vraiment l'arrivée de la 3D Relief aussi. Bon, ça peut être gadget. Voilà. Le retour d'une très grosse franchise sur Xbox 360, c'est une quasi-certitude. Les choses devraient être officialisées au mois d'avril.
Allô,
laquelle
ben, allô,
qui mise pour Halo, qui mise pour Shenmue 3 qui...
Ah merde, tu me l'enlèves de la bouche.
Ah, excuse-moi. Enfoiré.
Shenmue, bien sûr.
Ah bah oui, bien évidemment.
Ouais, surtout moi, je mise plutôt sur Halo. Hein.
Oui.
mais c'est beaucoup plus solide, quoi, Shenmue. C'est ça le truc aussi.
Exactement, bien sûr. Il y a eu aussi, quand même, et c'est un fait un peu triste, la fermeture de Bizarre Création. Alors, eux, autant.
C'est
autant
tristone, vraiment.
Pour certains, comme celui qu'on évoquait tout à l'heure, je m'en fous. Voilà.
Oui,
autant pour Bizarre, ils ont quand même fait des sacrés grands jeux.
Mais non, mais t'as une impression de gâchis total. Ils se font racheter par.
Ils ont lancé le truc, t'inquiète pas. Lucid Games, ils ont lancé. Donc, c'est bon.
Ouais, non, mais très bien, mais enfin, je veux dire, c'est du gâchis.
C'est qu'un nom, c'est pas grave.
Alors là, on vous comprend plus, messieurs. Là.
Non, je disais, c'est du gâchis parce que Activision les rachète, mm-hmm. leur fait développer un jeu, bon, ça se plante.
The Shoot.
Et Blur.
Ah oui, non, mais avant, ils ont fait The Shoot qui s'est planté aussi. Hein.
Ouais. Pour Sega, ouais.
Et Blur qui était une orientation un peu.
Mais
étrange,
c'était pas un jeu de bagnole, donc ça compte pas. Moi, pour moi, d'accord. Bizarre Création, c'est un jeu, c'est des jeux de bagnole, quoi.
Bah, tu sais que c'est les seuls studios qui ont réussi à me faire jouer à un jeu de bagnole. Le MSR. MSR sur Dreamcast, qui était fantastique.
Bah, t'aurais pu jouer au Project Gotham.
Autant dans l'ambiance que.
Très bien aussi.
Mais je n'avais pas de Xbox. Mm. C'était très cher pour moi à l'époque. Mais c'est bien dommage, Bizarre Création, parce que c'était un studio vraiment talentueux que j'avais eu la chance de voir justement pour Blur. Et bon, voilà, c'est la
Formula
politique. Exactement.
Mais ouais.
Tuerie ce jeu.
Ouais, c'est vrai que c'était un des meilleurs jeux de.
Et puis tous les PGR, ah,
mais
franchement.
Mais PGR, c'était bien aussi. Bon, c'était eux aussi MSR à l'époque.
Bah, PGR, en fait, c'est MSR sur Dreamcast, la suite. Quoi.
À la lumière de ce que disait Traz, ils ont recréé.
Ils ont créé Lucid Games, ouais, voilà, derrière. Apparemment,
à surveiller de près.
La ville de Liverpool les soutient vachement. Donc.
D'accord.
Il y en a plein qui ont eu des propositions au Canada, notamment, mais ils ne sont pas allés, ils préfèrent rester sur place pour faire le truc. Bon, et bon, bah, peut-être qu'ils ont acheté trop de Ferrari et de Porsche aussi. Hein.
Ouais. On leur souhaite bon courage en tout cas pour retrouver vite un taf et, au sein de cette structure Lucid Games, entre autres. C'est aussi la fin de la série des Guitar Hero et des DJ Hero.
Oh, ça, on s'en fout, ça.
Moi, j'y verserai pas grave ma larme.
Hein, je trouve ça bien, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Non, mais sans blague, c'était énervant non, d'en voir un tous les 6 mois.
Tu me colles un doute avec
cette
histoire de The Shoot, là, je suis en train de réfléchir.
Je pense que c'est pas du tout
c'est pas The Shoot, ça s'appelle pas The Shoot en fait.
C'est mon avis, c'est The Shoot,
mais c'est le jeu, tu parles du jeu pour Sega, et ça s'appelait. Il nous a tellement marqué ce jeu qu'on ne se souvient plus du titre, mais oui, effectivement, c'était un jeu time trial de shoot, voilà. Vu troisième personne.
Vous savez, les gars,
il fallait comboiser.
Parfois, il y a des petites absences comme ça.
Non, mais il y a des jeux qu'il vaut mieux oublier aussi.
Aussi.
Ou pas.
Donc, ouais, Guitar Hero. DJ Hero
Moi je joue pas ce genre de jeu donc je m'en fous, mais
là, je trouve ça très bien.
Moi je trouve ça super en fait.
Moi je mettrais juste un petit bémol sur le attention à ce qu'Activision ne devienne pas trop Call of Duty et World of Warcraft centrique.
Je pense que là tu leur dis attention, mais ils s'en foutent là.
Oui, mais ils vont racheter Tech 2 alors.
Voilà,
un problème. Ils auront les GTA et compagnie.
Non, mais ça va être ça. Mais c'est très
clair. En tout cas, ils en ont les moyens. Et puis, il y a eu un petit tweet intéressant de Kojima et son Devil Project où il annonçait avoir ressuscité avec délectation un personnage mort. Voilà, de tous les voilà, amateurs.
Un pronostic.
Moi j'ai dit Fortune.
Fortune.
C'est clairement pas le truc le plus. Glamour, mais je sais pas, je le sens. Et puis,
pas glamour,
était
non, mais c'était génial le passage de Fortune. Ouais, enfin, ouais. C'est tragique et en même temps, c'est beau et tout. J'adore.
Et puis surtout, il a un vrai background, donc il pourrait. Enfin, à suivre.
Quand tu découvres à la fin, qu'en fait. C'est génial. Alors,
on va conclure avec deux informations qui sont un peu finalement dans le même style. C'est tournant autour du sexe et le jeu vidéo. Avec Petit Flirt entre amis, qui a été annoncé pour la Wii et pour la PS3, Tiger.
Peggy. 12.
Oui,
disons-le.
Bah oui, mais ça me paraît normal.
Bah oui, parce que c'est parce que c'est parce qu'il y a dans la télé.
Dans la télé, pas ce qui se passe à l'extérieur.
Ah oui.
Mais je trouve ça.
Mais j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, ah bah en si. Effet. Ouais, non, mais t'as raison.
Moi, je trouve dans ça très malin en tout cas de la part d'Ubisoft.
Par contre, la pub est Peggy 18. Ça, voilà. Ouais. C'est
mais très malin Peggy en tout cas de 12. Se dire que je trouve que ça correspond clairement à une clientèle de personnes qui ont acheté.
Clientèle d'échangistes.
Qui l'ont acheté, mais vraiment parce qu'un effet de mode. Ils font leur petit dîner entre amis, justement, qui se dragouillent vaguement. Exactement, et qui font une petite
partouze
à la fin
comme tout le monde après le dîner.
Et je pense, voilà, c'est clairement pas un jeu.
Il faudra quand même qu'on le teste, les amis.
Ben oui, on va le recevoir là. Au moment où on est en train de vous parler, probablement on l'a reçu. On va essayer ça. Hein. On va voir qui va sortir avec qui.
Bah, je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est une blague ce jeu. Quoi. Je sais pas. Tant que je l'aurai pas entre les mains, ouais, j'ai l'impression que c'est un coup de merde.
Tant que t'auras pas quoi entre les mains.
C'est super bizarre.
Ok, il est temps de finir ce podcast.
Et
donc, la dernière news
là.
Qui est vachement moins rigolote, elle nous vient de Fox News, qui a déclaré donc en février l'augmentation des viols est liée aux jeux vidéo. C'est une citation du docteur Jerry Weissman. Et donc, qui a dit en gros, les jeux vidéo violents tels que Bulletstorm ont le potentiel d'envoyer un message expliquant que la violence et les insultes à insinuation sexuelle sont une bonne façon de gérer les disputes et de résoudre les problèmes. L'augmentation des viols peut être attribuée en grande partie aux jeux vidéo qui montrent des scènes à caractère sexuel.
Bah ouais, bah écoute, c'est habituel de ce qu'on peut voir sur Fox News. Hein.
C'est ça,
il y a un appel au meurtre toutes
les
20 minutes sur Fox News.
On avait encore jamais dit qu'il fallait absolument boycotter cette chaîne de merde, donc...
Voilà.
L'occasion jamais.
L'augmentation des viols est liée aux jeux vidéo. Mais mon Dieu,
j'aimerais bien savoir de quoi il est docteur quand même ce mec.
Non, mais c'est pas
ça doit être un proctologue ou un truc comme ça.
Voilà, c'est sur cette note désabusée, un peu paniquée, de si peu d'intelligence quand même, que nous allons vous quitter.
Tout à fait, Jean-Pierre.
Pour repartir de ce pas, faire le live des 4 ans de Gameblog. C'est pour ça aussi que, voilà, parfois il y a eu un petit peu de... On était un peu dissipés. Ceux qui ont vu la vidéo auront probablement compris pourquoi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, sélectionnez les actus que vous avez préférés dans les forums. Ciao.
Ciao.
Salut.
Ciao.
Ciao.